Et comme à la fin on meurt seul, on va méditer sur le souffle pour se préparer à ce moment fatidique. Donc on reprend toujours la même méditation. On se concentre sur le point à l'entrée des narines et on observe les sensations qu'on y éprouve lors de l'inspiration et de l'expiration. Donc essayez d'être bien vigilant. Est-ce que vous êtes concentré sur ce point ou est-ce que votre esprit commence à s'égarer? Et à ce moment-là, juste ramenez-le. Donc on fait la méditation pendant 10 minutes. C'est parti. en génère, amour qu'il souhaite que tous les êtres puissent obtenir le bonheur et les causes du bonheur, et on associe cette pensée à la compassion, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de leurs causes. Et on stabilise ces pensées bienveillantes d'amour et de compassion pendant 5 minutes. Ok. Alors, ce matin, on avait passé un petit peu en revue, dans le détail, cette réflexion sur la conscience de la mort, donc que la mort était inévitable, son moment, lui, complètement incertain, et qu'au moment de la mort, la seule chose qui serait véritablement utile, c'est les qualités intérieures qu'on aura pu développer par rapport à notre pratique. Donc on avait vu qu'on pouvait, par rapport à cette réflexion, développer une intention extrêmement puissante, forte, d'utiliser à bon escient notre vie, de l'utiliser, d'utiliser cette opportunité qui nous était donnée dès maintenant avec une attitude complètement pure, et donc d'éviter au maximum de gaspiller cette opportunité qui nous est donnée avec des préoccupations très mondaines, d'accumuler juste par exemple des richesses dues à un attachement trop prononcé au corps, de passer trop de temps à en prendre soin, et puis aussi de trop mettre l'emphase un petit peu juste sur des relations amicales, mondaines, qui au bout du compte ne nous apportaient pas vraiment quelque chose d'important, puisque au bout du compte, au moment de la mort, Gisèle, elle dit plus rien maintenant, on meurt seul, donc on meurt tout seul, sans même les personnes les plus proches, les gens de notre famille, etc., sans pouvoir emporter aucune richesse. Et ce corps qu'on a tant chéri, qu'est-ce qu'il devient au moment de la mort? Un cadavre, si on le laisse dans des conditions propices, plutôt un cadavre nauséabonde, on peut dire, ouais. Putréfaction, donc oui, maintenant les parfums, etc. Donc d'un point de vue bouddhiste, on va pas échapper à la mort. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, d'un point de vue bouddhiste? On a vu, en essence, qu'est-ce qu'on est? On est un esprit. Un esprit qui est une continuité de moments de conscience. Donc, on avait réfléchi dans les modules précédents que cette continuité d'esprit, en fait, elle n'a ni début, ni fin. Okay? Et que d'une certaine manière, on peut dire qu'on est dans une succession de moments de conscience, donc d'être, mourir, être de nouveau, mourir, être, mourir de nouveau, etc. Et il y a une continuité de ce processus. Donc comme on fonctionne à un niveau très grossier, on n'est absolument pas conscient de cette réalité impermanente de changement d'instant après instant. Ce qui se passe, c'est qu'on va être juste conscient de l'impermanence à des moments, donc vraiment flagrant, où cette impermanence se manifeste à un niveau grossier. Donc dans les textes, d'un point de vue bouddhiste, les circonstances de la mort, on va mourir en fait de différentes manières, et il parle tout d'abord par épuisement de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait qu'on prend renaissance? D'un point de vue bouddhiste, c'est une action, un karma, qui nous a projeté dans, par exemple, une renaissance humaine. Okay? Et ce karma qui nous projetait dans une renaissance humaine, c'était donc une cause pour, par exemple, avoir une vie de 100 ans. Et tout simplement, ce karma, cette action, ce potentiel, porte son fruit. Le fruit arrive à maturation, son plein développement, et naturellement, s'épuise, disparaît. Donc, premier cas de figure de mort. Dans les textes, ensuite, ils disent qu'il y a la mort qui survient par épuisement des mérites. Donc même si en fait notre karma nous permettait de vivre 100 ans, il y a un manque de mérite qui va faire qu'on ne va pas trouver par exemple la nourriture suffisante pour pouvoir vivre ce potentiel de vie jusqu'à son accomplissement. D'accord, ça va, allez, on va le faire comme ça. Donc, un autre cas de figure, c'est si, par exemple, on tombait malade, okay, et qu'on ne peut pas trouver de médicaments, on ne peut pas prendre les médicaments pour guérir cette maladie, et on va mourir, alors qu'encore une fois, notre karma, normalement, nous aurait permis de vivre jusqu'à 100 ans. Ensuite, il parle donc d'un autre cas de figure où il y a la perte de la force vitale. La force vitale, donc l'énergie essentielle qui nous permet de vivre, et dans les sutras, il donne 9 cas de figure qui vont vraiment produire un affaiblissement très fort de ce vent qui nous soutient la vie. Et le premier exemple qui est donné, c'est trop manger. Donc vous mangez vraiment en excès. Vous allez voir qu'il y a en fait pas mal de ces points qui sont reliés un petit peu avec la nourriture quand même. Ensuite, prendre des aliments qui sont complètement indigestes, voire malsains. Donc on peut parler d'aliments comment ? Des aliments qui sont pas propres à la consommation. Toxiques, invariés. Donc si on prend ces aliments, on pourrait mourir. Un troisième exemple, c'est, ils appellent ça donc le manque de tempérance. C'est après avoir, par exemple, pris un repas, en quantité trop importante, on ne va pas attendre d'avoir fini d'avoir digéré cette nourriture, on va reprendre encore de la nourriture. Et ça risque donc d'entraîner un très fort affaiblissement de cette énergie vitale et qui peut provoquer de là la mort. Ensuite, l'impossibilité de digérer, de rejeter une nourriture qui a été donc assimilée. Ensuite, le rejet de la nourriture, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus assimiler de nourriture, donc plus avoir tout simplement l'énergie nécessaire pour entretenir le corps. Après, il parle de, dans le cas de maladie, justement, de le refus ou de ne pas pouvoir prendre les médicaments pour pouvoir contrecarrer la maladie. Ensuite, il parle d'imprudence. Un exemple qui est donné dans un texte, c'est tout simplement d'aller dans l'eau si vous ne savez pas nager. Vous jetez dans l'eau, vous n'avez pas pied, qu'est-ce qui se passe ? On coule. Des cas, donc, après, où on a un affaiblissement de l'énergie vitale, dans le cas d'accident. Et le dernier exemple qui est mentionné, c'est avec une activité sexuelle excessive. Donc là, il y aurait trop de perte d'énergie et ça pourrait entraîner la mort. Après, dans les textes, il parle donc d'un aspect assez important, c'est on va mourir avec un certain type d'esprit. On va mourir avec un type d'esprit soit positif, soit négatif, soit neutre. Et on l'a vu ce matin, juste, on l'a juste mentionné, c'est extrêmement important parce que le dernier type d'esprit grossier, donc positif ou négatif, c'est lui qui va un petit peu déterminer tout simplement ce qui va se passer par la suite. On va voir que dans le processus de la mort, donc on est dans un fonctionnement grossier, toutes les énergies, les pensées, etc. grossières vont se réabsorber dans les aspects les plus subtils, même l'aspect le plus subtil, qui lui est complètement neutre. Et après, il va y avoir de nouveau un fonctionnement grossier qui va s'élever de cette essence la plus subtile. Ce nouveau processus de développement vers un aspect grossier, en fait, quelle coloration il va prendre ? Il va prendre la coloration du dernier moment de conscience grossière qui avait été généré. Par exemple, un état d'esprit positif et le dernier moment de conscience grossier se réabsorbe dans l'aspect le plus subtil. Après, quand on réémerge de l'essence de l'aspect subtil, on va prendre une direction positive juste de par le pouvoir, la force de cet aspect positif de l'esprit au moment où on est mort. Donc, si c'est vrai pour ce qui est positif, qu'est-ce qui va se passer dans le cas négatif ? L'opposé. Okay. Donc on va prendre une direction plutôt négative. Donc là encore, positif, négatif, il faut toujours l'assimiler à quoi ? Quand on qualifie quelque chose de positif, généralement dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui est effectivement à assimiler avec le bonheur, qui est en relation avec le bonheur. Quelque chose qui est négatif, ça va être quelque chose qui va être en relation avec donc la souffrance. On parle d'une action positive, pourquoi ? Parce que cette action est une cause pour une expérience future de bonheur. On parle d'une action négative, parce qu'elle est la cause pour une expérience de souffrance. On parle d'émotions négatives, de perturbations mentales négatives, pourquoi ? Parce qu'elles sont la cause de la souffrance, c'est ce qui nous bloque en fait de pouvoir expérimenter un vrai pur bonheur. D'accord ? Donc après, dans le cas où on allait mourir avec un état d'esprit neutre, qu'est-ce qui va se passer ? Dans les textes, ils nous disent c'est tout simplement par rapport à la quantité la plus importante d'énergie positive ou d'accumulation positive ou négative qui va donc là nous orienter. Donc je fais une petite parenthèse, en fait, on nous dit donc que le moment de la mort est extrêmement important, le dernier moment de conscience grossier est extrêmement important. Quel type d'esprit va falloir plutôt générer à votre avis ? si on veut aller vers le bonheur. Positif. Okay. Donc, par exemple, pour nous-mêmes ou pour les autres, il va falloir créer un petit peu toutes les conditions favorables pour pouvoir être dans cet état d'esprit positif et éviter au maximum de créer les conditions pour se retrouver dans un état d'esprit négatif. Donc, par exemple, si on accompagne quelqu'un qui meurt, il va falloir éviter toutes les manifestations émotionnelles qui seraient susceptibles d'entraîner, par exemple, de l'attachement, de l'aversion, etc., envers la personne qui est en train de mourir. Okay? Et même si, d'une certaine manière, on est touché par la perte de cette personne, il faudrait qu'on prenne un petit peu de recul pour voir qu'est-ce qui va vraiment être important, bénéfique pour la personne. Est-ce que de manifester notre peine, notre chagrin, va lui être bénéfique? Non, ça risque aussi, tout simplement, de générer une réaction émotionnelle forte en elle, qui va être basée sur de l'attachement ou de l'aversion, etc. Donc, en fait, être plutôt très négatif pour elle, puisque ce dernier état d'esprit va la diriger vers, donc, tout simplement, une manifestation après extérieure qui va être plutôt difficile. Laurent, avec le micro, s'il te plaît. Je ne sais pas où il est. Il est là. C'est pas celui-là. José, souris à la caméra.
Alors, ça marche?
Appuie sur le bouton.
On entend, j'ai
l'impression. Oui, oui, ouais. Je pense.
Donc la question...
Vous entendez? Non?
Non.
Ils n'entendent pas.
Oui. Oui, d'accord. Si la dernière pensée est déterminante pour la naissance future, je vois mal quel est le rapport entre une vie, par exemple, vertueuse, où on a cheminé en essayant d'éliminer l'ignorance, de cheminer vers le bonheur, et par exemple un événement, un accident, quelque chose d'imprévu, qui fait qu'on va avoir, par exemple, une pensée de peur qui va être très, très contraignante. Comment s'effectue le... Enfin, tu vois, j'ai du mal avec ce rapport entre bon, une vie, par exemple, vertueuse, mais qui serait polluée, finalement, en quelque sorte, au dernier moment, par une grande peur, une grande souffrance, une grande...
Pas de peau, hein.
C'est dommage.
C'est dommage. Donc déjà, il y a ce qui me vient à l'esprit, c'est une première chose, c'est on dit le dernier état de conscience grossière détermine. Mais ce dernier état de conscience grossier, quand même, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement profond, etc. Donc quand est-ce qu'exactement il a lieu, c'est difficile à dire. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui meurt d'une mort naturelle, okay, et que donc c'est un processus relativement progressif. Il va passer par différents états. Par exemple, peut-être positif, négatif, positif, etc. Et c'est surtout donc vraiment le dernier qui va être prédominant. Donc après, est-ce que nous, par exemple, on peut avoir l'impression que le dernier état va être un tel, mais en fait, pas forcément. Peut-être qu'il se passe encore quelque chose derrière. Et après, donc, qu'est-ce qui fait qu'on va générer un certain type d'esprit? C'est ce type d'esprit, il provient, donc il est toujours sous le fonctionnement naturel de cause et d'effet. Par exemple, un état d'esprit négatif, donc il apparaît en fonction, bien sûr, de conditions extérieures, mais surtout d'une cause intérieure, qui est un moment précédent de conscience négative. Okay? Donc, par exemple, plus on va se familiariser avec des états d'esprit positifs, plus on va créer des empreintes positives qui sont elles-mêmes des causes pour avoir tout simplement des états d'esprit positifs. Plus on crée une habitude, tout simplement, qui fait que plus naturellement on va créer des états d'esprit positifs. Plus naturellement, même avec l'entraînement, dans des conditions adverses, en fait, on va avoir plus facilement tendance à petit à petit répondre de manière positive. Donc si on s'entraîne toute notre vie, en fait, on va avoir plus de chances pour que, au moment de notre mort, on génère quelque chose de positif. L'entraînement, justement, il est important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'on s'entraîne à faire face un petit peu à n'importe quelle situation et essayer tout simplement de créer cette nouvelle habitude, cette nouvelle familiarisation à de réagir de manière toujours positive. Si on s'entraîne vraiment, même, on peut arriver à créer une stabilité qui va faire que même si on se retrouve dans une situation comme un accident, par exemple un accident de la route, etc., où l'esprit peut arriver à demeurer tout à fait positif. Okay. Ça peut être un exercice intéressant. De temps en temps, vous montez en voiture, et pas quand vous conduisez, parce que là, vous êtes trop absorbé dans la méditation, donc vous allez vous viander, mais de se dire tout simplement, oui, effectivement, la mort, elle peut arriver. Mais la mort, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quelque chose qui peut vraiment aider, c'est se dire, c'est une expression tout simplement de l'esprit le plus subtil. C'est une expérience issue de l'esprit le plus subtil. Ce n'est qu'une expérience. Donc à ce moment-là, on n'a aucune appréhension par rapport à ce qui se passe. Et en méditation, on apprend à se familiariser, à avoir un état d'esprit donc positif, et à force d'entraînement, si on est confronté réellement à cette chose-là, on aura créé cette force d'habitude qui risque de faire que on va réagir de la même manière. D'accord? Et après, peut-être que dû à notre karma, malheureusement, donc il y a un épisode extrême qui se produit, qu'on réagit d'une manière négative. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on va plutôt prendre une direction négative, mais on va voir que plus tard, il peut quand même y avoir un petit peu une intervention. Mais toutes les façons, par rapport à tout ce qu'on aura accumulé dans notre entraînement par rapport à cette vie-ci, tout ça c'est positif, tout ça, ça va pas être perdu, tout ça, ça va être à un moment ou un autre utilisé, ça va ressurgir et ça va donc apporter ses fruits très positifs. D'accord? Donc, déjà, pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est par rapport à la mort d'un proche ou par rapport à notre mort, c'est créer toutes les conditions extérieures les plus favorables pour pas déclencher des états intérieurs négatifs. D'accord? Donc, on revient, c'est vraiment voir, Philippe, une fois, disait que très souvent, en fait, quand on perdait quelqu'un, c'était une attitude très égoïste, si je me rappelle bien. Puisque on est concerné juste par nous-mêmes, et il y avait un être qui nous apportait quelque chose de positif, d'agréable, etc. On perd cette chose, donc on s'apitoie sur son propre sort de ne plus avoir cette chose. Okay? Mais si vraiment on aime la personne, en fait, quelle attitude il faut avoir? C'est une attitude noble, une belle attitude qui va au contraire être positive, constructive pour elle. Si l'expression de notre attachement, de notre chagrin, en fait, peut être une cause qui va entraîner des problèmes pour la personne, c'est important de prendre un petit peu de recul et de voir que vraiment c'est quelque chose de déplacé et que la personne, ce dont elle a besoin, en fait, c'est d'un support positif, d'un support le plus serein possible pour elle-même pouvoir développer un état intérieur tranquille et aborder cette simple expérience, parce que plus on va relativiser un petit peu ce processus de la mort, moins on va le cristalliser, etc., plus ça va être facile tout simplement de le gérer. Donc la personne pourra aborder dans de meilleures conditions un petit peu ce moment. On va voir après un petit peu les choses qu'on peut faire pour se préparer pour sa propre mort, mais ce qui est important de voir, c'est toutes les façons, comment on se prépare vraiment à bien mourir ici et maintenant, en vivant correctement. Quand je dis vivant correctement, c'est sur la base d'une éthique, sur la base de la sagesse, de la concentration, de la bienveillance. Tout ça, si on les développe ici et maintenant, on s'y habitue, il y a toutes les chances qu'au moment de la mort, ce soit les énergies qui nous habitent, qui nous animent, et à ce moment-là, il n'y a absolument aucun problème, bien au contraire. Donc comme je vous ai dit, il y a même des individus, des très grands pratiquants, qui vont utiliser le processus de la mort pour parachever complètement toutes les réalisations. Donc c'est une opportunité extraordinaire, même ce moment de la mort, c'est une aubaine. C'est absolument pas du tout quelque chose de catastrophique, de dramatique ou un traumatisme. Rien à voir, Philippe.
En fait, c'est pas une question que je vais poser. C'est, je vais relater un peu une expérience. Il y a eu récemment à Toulouse une conférence sur les NDE à laquelle j'ai assisté. Et il y a une personne qui a raconté, c'est une personne qu'on appelle un expérienceur, en fait, qui a fait une expérience NDE et qui a raconté. S'il y a des gens que ça intéresse, il y a un site sur lequel on trouve le texte de sa conférence. Il s'appelle Nicole Dron.
Nicole Dron.
Dron, D-R-O-N. Et en fait, elle dit que, à un moment, elle s'est retrouvée. D'abord, elle a eu un grand moment de peur, qu'elle était dans le noir et qu'elle ne. Vraiment, ça, c'était un moment très difficile à passer et qu'ensuite, elle a vu de la lumière, ce que racontent beaucoup de personnes. Juste une parenthèse, en fait, cette conférence était faite par un toubib toulousain qui s'appelle Dr Charbonnier, qui est anesthésiste réanimateur et qui a donc assisté à beaucoup de ce genre d'expérience. Il dit que ça touche à peu près 4% de la population, ce qui est énorme par rapport aux milliers d'opérations. Et donc, lui qui était très opposé à ce genre de choses, en fait, il s'y est intéressé parce qu'il a observé des choses qui l'ont vraiment choqué, ou du moins interpellé. Et donc il a écrit récemment un livre sur 128 cas de personnes qui ont bien voulu lui raconter leur expérience. Et il y a une chose qui ressort aussi bien dans les bouquins de Raymond Moody ou d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est que tous les gens qui ont eu ces expériences de NDE, tout d'un coup deviennent des gens extrêmement altruistes, qui n'ont plus du tout peur de la mort, et qui tout d'un coup se tournent vraiment vers les autres et dégagent un amour incroyable. Et en fait, Nicole Dron dit qu'à un moment, on lui a posé une question. On lui a dit « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Donc je pense que par rapport à ta question, si effectivement tu as une éthique de vie, toute ta vie qui est effectivement tournée vers les autres, quelles que soient les circonstances de ta mort, même si ce sont des circonstances violentes et voire terrifiantes, il y aura un moment, d'après ces témoignages-là en particulier, il y a un moment où on te pose la question, où tu te la poses, je ne sais pas quel est le principe, mais où ces gens disent qu'on leur a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Si tu as eu une vie qui finalement a été tourné vers les autres, ou vers l'éthique, ou vers l'amélioration de toi-même, ou vers le dharma, à ce moment-là, tu réponds simplement à la question. Et je pense qu'il y a un apaisement qui vient fondamentalement. Et donc, à ce moment-là, on revient dans ce que tu dis, Sixte, par rapport à l'état d'esprit et, qui amène après à des... Voilà, c'était un peu long, pardon.
Et en fait, si on se rappelle un petit peu des bienfaits de se souvenir de la conscience de la mort, quel était un des bienfaits fondamentaux ? Et à la fin, le dernier, c'était comment est-ce qu'on meurt ? Non, c'était pas ça. Non, 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 non. Je te regarde même pas. On meurt complètement serein, tranquille. Alors que si on ne se rappelait pas de la mort, ça voulait dire qu'on s'engageait dans des attitudes non vertueuses, etc. Et qu'au moment de la mort, on mourait avec un état d'esprit extrêmement perturbé, etc. Donc, pour en revenir effectivement à la question de Laurent, si vraiment on a conscience de la mort pendant notre vie et que ça nous pousse vraiment à avoir une transformation intérieure, on crée les causes pour avoir une mort sereine, sans aucun regret. Okay. Et donc, d'autre part, c'est par la pratique, d'une certaine manière, on se prépare vraiment à ce moment-là et on crée les causes pour aborder ce moment-là avec une très grande sérénité, une très grande tranquillité et on peut parfois dire même avec une très très grande maîtrise. Donc après, en fait, dans le processus de la mort, qu'est-ce qui se passe ? D'un point de vue bouddhiste, il y a certains textes qui disent on est composé de différentes choses et parfois on parle de 25 aspects grossiers. Il y en a qui vont vous être familiers, d'autres un peu moins. Les premiers 5, c'est les 5 agrégats. Gisèle, quels sont les 5 agrégats ? L'agrégat de la forme, les sensations. Souffle encore. Ça, c'est le quatrième. Facteur composé, donc avant, sensation, discrimination, identification, facteur composé et conscience. En simplifiant, on peut dire le corps, ce qui relève de la matière, la forme, et de l'esprit. D'accord ? Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle cinq sagesses. Sagesse, dans les textes, on va parler de sagesse élémentaire, puisque ce n'est pas des sagesses pleinement développées, c'est des sagesses qui ont une certaine connaissance, mais qui est limitée, polluée par les perturbations mentales. Donc juste pour les mentionner, une sagesse semblable au miroir, qui est l'aspect de la sagesse qui permet tout simplement à une multitude d'objets, de phénomènes, d'apparaître à l'esprit. Et l'analogie qu'ils utilisent, c'est un petit peu comme un miroir, tout simplement. Vous mettez un miroir, vous pouvez mettre une multitude d'objets devant, ils vont se réfléchir naturellement. Ensuite, une autre sagesse qui s'appelle la sagesse élémentaire de l'égalité et qui nous permet de voir les facteurs communs en fait entre certaines choses. Par exemple, il y a des sensations qui sont plaisantes, il y a des sensations qui sont déplaisantes, donc la souffrance, le bonheur, il y a des sensations qui sont neutres. Quel est le point commun entre ces trois ? Ils sont composés, ouais, mais en fait, j'ai parlé de trois choses. Mais j'employais, pour chacune d'elles, une sensation. C'est une sensation. Donc là, cet aspect de la sagesse va voir donc l'aspect commun qu'il y a entre des mêmes choses. Donc elle va pouvoir percevoir que c'est par exemple d'un même type en tant que sensation. Un troisième type de sagesse élémentaire qui est la sagesse de l'analyse et qui va arriver en fait à discriminer justement les différences, à différencier les différences entre donc différents aspects dans un même objet ou différents objets. Une autre sagesse qui s'appelle la sagesse qui accomplit les activités, toute activité, et là c'est une sagesse qui voit un petit peu la relation entre une cause et son effet, une action et son résultat. Et puis une dernière sagesse qui s'appelle la sagesse élémentaire de la nature des phénomènes, qui est la sagesse qui permet simplement de connaître la nature même de l'objet, de connaître un petit peu l'objet. Donc là je suis en train de vous mentionner un petit peu ces 25 aspects parce que ces 25 aspects, au moment de la mort, on va rentrer dans un processus de dissolution progressif et ces donc différents composants vont se réabsorber progressivement, donc certains simultanément ensemble, mais d'une manière progressive. D'accord ? Donc là, ça nous donne un petit peu une vue un peu plus complète de ce qui se passe. Ensuite, on est composé de quatre, ce qu'on appelle les quatre grands éléments, l'élément de la terre, l'élément de l'eau, l'élément du feu, l'élément du vent. Ça, il faut le comprendre, tout simplement terre, les éléments solides du corps, l'eau, les éléments liquides, le feu, l'élément de chaleur, entre autres ce qui produit la digestion, etc. Et le vent, c'est des énergies ou des vents subtils qui animent le corps, et on parle de 5 vents principaux et 5 vents secondaires. Après, je peux vous dire que, par exemple, la compréhension un petit peu de ces vents est extrêmement intéressante pour des pratiques très poussées où, justement, on va découvrir un petit peu les aspects beaucoup plus subtils de notre corps, les énergies plus subtiles qui nous animent, et donc apprendre à les reconnaître, apprendre leur fonctionnement, apprendre à les maîtriser pour, justement, là, on va parler du processus de la mort, donc un processus de dissolution des aspects grossiers pour tout simplement, qui va permettre à l'aspect le plus subtil d'apparaître. Et les pratiquants, qu'est-ce qu'ils vont faire volontairement, en fait? Ils vont maîtriser toutes ces énergies et ils vont provoquer ces dissolutions de ces aspects grossiers pour éveiller les aspects beaucoup plus subtils. Et le but recherché au bout du compte, c'est d'éveiller l'aspect le plus subtil qui est, Olivier, l'esprit de clair-lumière. Et cet esprit de clair-lumière, il va être utilisé pour méditer sur la sagesse qui va nous permettre donc après de détruire complètement l'ignorance. Donc on a vu les quatre grands éléments. Il y a ce qu'on appelle les 6 sources, donc qui sont les sources ou les facultés, le sens visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile, mental. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est en connexion avec l'organe dans les textes bouddhistes, donc l'organe par exemple visuel, il y a une matière extrêmement subtile qui relie en fait l'image perçue par l'organe et fait le lien avec la conscience visuelle. Donc à quoi est-ce que ça correspond par rapport à la médecine occidentale? Ce serait intéressant de savoir. Est-ce que c'est tout simplement l'énergie, au niveau des nerfs, l'information elle passe? Donc après, on va avoir le même processus par rapport à tous les organes, ce qui fait la connexion en fait entre l'organe lui-même, visuel ou auditif, etc., et la conscience qui va permettre de percevoir l'objet. Donc une fois j'en ai parlé un petit peu avec Valérie qui est médecin, et par exemple par rapport à ce qui est en relation avec le fait de percevoir visuellement, elle pensait qu'il y avait une petite zone au niveau du cerveau, peut-être qu'elle pensait que c'était ça. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est tout simplement l'influx nerveux qui passe et qui transmet l'information? Bon, là, on n'a pas pu vraiment faire encore parfaitement le parallèle entre la compréhension occidentale et l'explication qui est donnée dans les textes bouddhistes. Donc, les sens visuels, auditifs, olfactif, gustatif, tactile et mental, c'est ce qui est en relation avec l'esprit. Et puis les objets eux-mêmes, donc les objets, les formes visibles, les sons, les odeurs, les goûts et les objets tangibles. Donc en fait, un petit peu, tous ces aspects-là sont des aspects qui nous constituent. Et même quand on parle des formes visibles, c'est pas forcément des formes visibles extérieures. Ça peut être la forme visible de mon corps. Okay ? Donc quelque chose qui est perceptible, même je peux percevoir visuellement des aspects de mon corps. Et donc quand on meurt, tout simplement, donc dans le cas d'une mort accidentelle extrêmement violente, le processus est très rapide. Donc on va pas avoir vraiment conscience de ces dissolutions. Okay ? Mais dans un processus donc naturel, dans les textes bouddhistes, il est dit qu'on va passer par huit étapes de dissolution. Et dans la première étape de la dissolution, il y a certains justement nos composants. La force ou le fonctionnement de ces composants va commencer à s'affaiblir, va commencer donc à se dissoudre et cesser de fonctionner. Donc dans le premier cas, dans la première dissolution, qu'est-ce qui se dissout ? Il y a tout simplement déjà l'agrégat de la forme, donc un des aspects de sagesse que j'avais mentionné qui était la sagesse semblable au miroir. Là, vous pouvez prendre votre tableau qui est dans la pochette violette, qui reprend un petit peu toutes ces dissolutions. Donc là, on voit qu'il y a l'élémentaire qui va se dissoudre, la forme, la faculté visuelle. Donc après, dans le signe extérieur, la personne qui est en train, donc petit à petit, d'aller vers la mort, elle va avoir l'impression que son corps devient extrêmement faible, sans force, une sensation que son corps s'enfonce complètement, ça va devenir difficile pour lui d'ouvrir, de fermer les yeux. Il va y avoir aussi une diminution au niveau de l'éclat, la luminosité un petit peu du corps. Et puis il va y avoir une apparence intérieure qui est semblable au mirage. C'est quoi cette apparence semblable au mirage ? Ben, tout simplement, vous pensez une journée très chaude en été, vous êtes sur l'autoroute, et des fois vous voyez des mirages, où vous êtes quelque part, et puis dû à une petite évaporation d'eau, de réverbération, il y a donc cette sensation, cette vision du mirage. Donc là, l'individu va avoir ce genre de perception intérieure. Dans les textes tantriques, où en fait on nous indique comment méditer un petit peu sur ces dissolutions, d'abord au niveau de l'imagination, on nous dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette apparence du mirage, c'est pas comme on est sur l'autoroute et puis on voit un mirage là. Ce sont des expériences qui vont complètement nous envahir, des expériences extrêmement intenses intérieures. Au niveau de la deuxième dissolution, donc l'élémentaire a perdu sa force, et là ça va être l'élément eau qui va commencer donc à perdre de son efficacité. Automatiquement aussi, l'agrégat à la sensation va disparaître, les facultés auditives aussi. Donc les liquides, tout simplement, de notre corps vont commencer à s'assécher, il va plus y avoir de sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres. Okay. Il va y avoir un certain état d'équanimité. Les sons externes et internes aussi vont devenir inaudibles, ce qu'on ne va plus entendre. Donc, tout simplement, si quelqu'un nous parle, etc., là, on commence à plus pouvoir entendre. Et puis, parfois, il y a même des sons internes, okay, comme un bourdonnement dans l'oreille, etc. Tout cela aussi vont disparaître. Et à ce moment-là, il y a une apparence, comme donc l'apparence de fumée, comme si on était dans un lieu qui était complètement rempli, envahi de fumée. Après, donc, il y a troisième dissolution où l'élément feu, lui, va donc complètement disparaître, s'amenuire. L'aspect de l'esprit de pouvoir discriminer aussi va disparaître, et le sens olfactif va faire de même. Donc là, il va y avoir une perte de capacité à distinguer les proches, parents et autres. On ne va plus arriver à les reconnaître. On ne va plus se souvenir non plus des gens, donc de leur nom, des personnes, etc., des choses. Le corps va perdre sa chaleur, donc après dû justement à cet aspect de chaleur, c'est ça qui nous permettait de digérer. Là, il va complètement, donc on va plus pouvoir digérer. L'expiration va devenir très forte et l'inspiration, elle, extrêmement faible, légère, et on va avoir une grande difficulté à respirer. Le sens olfactif va cesser, donc on va plus pouvoir sentir les odeurs. Et à ce moment-là, on a une apparence de flamèche, d'étincelle, de luciole. Comme par exemple, vous savez, il y a si vous faites un feu, parfois il y a vraiment ces étincelles ou ces flamèches. Et là, tout l'environnement, toute la perception va être comme envahie par ces flamèches. Ensuite, il va y avoir une quatrième dissolution où l'élément air, vent, va disparaître, les facteurs composés aussi, et le sens gustatif et tactile en même temps vont plus fonctionner. Là, on va plus arriver à bouger, la respiration va s'arrêter, toutes les activités physiques vont cesser, la langue se contracte, s'épaissit et la base devient toute bleue, et on a une perte complète du goût et du toucher. Et donc là, en pratique, généralement à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va dire ? Il est mort. Donc là, il y a une différence fondamentale entre la vue un petit peu actuelle occidentale et la vue bouddhiste de quand est-ce qu'occurre vraiment le moment de la mort. Quand la respiration s'arrête, que le cœur s'arrête, l'encéphalogramme est plat, okay, on va parler de mort clinique. D'un point de vue bouddhiste, la mort effective, véritable, n'a pas encore eu lieu. Il y a un processus, oui, mais il y a encore des étapes. Et la conscience, en fait, la plus subtile, est toujours associée avec le corps. Et on ne peut pas parler, en fait, encore à proprement parler de mort. Et l'individu fait encore des expériences. Et ces expériences sont, d'une certaine manière, encore associées avec ce support corporel. D'accord ? Et donc après, là, il va y avoir donc une succession d'autres dissolutions. Et en fait, il y a ce qu'on appelle 80 conceptions indicatives. Donc dans le petit livre que je vous avais mentionné, Mort, état intermédiaire, renaissance, la traduction française de ce livre-là, ces 80 conceptions sont mentionnées, mais c'est pas la peine d'en parler maintenant. Mais donc d'une manière progressive, là encore, elles vont donc se dissoudre, et dans un premier temps, il y en a 33 d'elles qui vont se dissoudre, puis 40, puis 7. Associé, en fait, à ces dissolutions, il va y avoir une vision, ce qu'on appelle l'apparence blanche, ensuite d'accroissement rouge, et en fait une vision noire, qui va finalement déboucher sur l'esprit le plus subtil, qui est l'esprit de clair-lumière. D'accord ? Cet esprit de clair-lumière, donc encore une fois, il est complètement non conceptuel, donc c'est un état qui est au-delà de toute dualité, une expérience extrêmement lumineuse, pure, de très grande félicité, qui est la base, en fait, pour tous les autres types d'expériences, tous les autres types d'esprit. Donc, en fait, pour nous, juste là, comme ça, l'énoncé de ces dissolutions n'est pas forcément très utile. La méditation sur l'impermanence, sur la mort, généralement, va avoir beaucoup plus d'effet. Par contre, au niveau des pratiques du tantra, là, on va vraiment s'habituer, en fait, à d'abord, au niveau de l'imagination, passer par ce processus et toujours, en fait, associer ce processus avec une compréhension de la vacuité et toujours avec l'intention, en fait, d'être capable de méditer sur la vacuité et d'arriver finalement à l'esprit le plus subtil, d'en avoir une réalisation très claire et de l'utiliser pour quoi faire. Tout simplement parachever le développement de notre sagesse, utiliser cet esprit qui est extrêmement puissant pour méditer sur la vacuité. Et contrairement donc à l'approche des sutras, si on est capable d'utiliser cet esprit plus subtil et qu'on réalise directement la vacuité avec, qu'est-ce qui se passe ? Instantanément, automatiquement, on va détruire toutes les perturbations mentales d'un seul coup. C'est terminé. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le module 3, présentation du chemin, on a vu que c'était quelque chose qui était très progressif. On parlait donc pour parcourir les cinq chemins de trois grands éons incommensurables, un premier grand éon incommensurable pour les deux premiers chemins, chemin de l'accumulation et de la préparation, ensuite chemin de la vision et de la méditation jusqu'à la septième terre incluse un autre grand éon, donc il fallait un grand éon incommensurable pour se débarrasser de toutes les perturbations mentales. Là, avec la puissance de la qualité de l'esprit de clair-lumière, la réalisation, quand il y a une réalisation de la vacuité directe, instantanément, elle va détruire toutes les perturbations mentales. D'accord ? D'où, en fait, cette vision qui dit que la pratique du tantra est une pratique extrêmement puissante, extrêmement rapide, et qu'elle nous permet d'atteindre l'illumination très très rapidement. Mais ça, c'est vrai que si, en fait, on a préparé l'esprit pour que cette pratique soit efficace. Donc, la mort, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, c'est une succession de moments de conscience avec différentes expériences. Pour le yogi, en fait, de se familiariser avec ce processus, c'est extrêmement important. Et en fait, même, il y avait une vidéo qui parlait donc de ce lama en Nouvelle-Zélande, je vous en avais parlé, qui était mort et puis qui était resté pendant 18 jours en méditation sur l'esprit de clair-lumière. Donc il y a la télévision Nouvelle-Zélandaise qui avait été autorisée à faire un petit documentaire pour essayer de témoigner, de comprendre un peu de ce qui se passait. Et puis donc il y avait un lama encore vivant qui parlait, qui expliquait un peu ce qui se passait et qui disait, mais vous savez, en fait, par exemple, le Dalai Lama, et donc beaucoup d'autres pratiquants, ils s'entraînent à mourir 6 fois par jour. Parce que, par leur pratique, ils arrivent vraiment à maîtriser un petit peu les énergies internes, et ils mettent en marche, donc, ce fonctionnement de dissolution pour activer, donc, les aspects de plus en plus subtils de l'esprit. Donc, en fait, nous, on a une très grande appréhension de la mort, etc., parce qu'on a un niveau de fonctionnement très grossier, et donc un niveau très grossier, donc d'une part, qui est animé par des attitudes extrêmement destructrices, d'ignorance, d'attachement, d'aversion, etc., qui viennent naturellement donc créer une très grande détresse intérieure, on pourrait dire, d'une certaine manière, et de part aussi le fait de l'ignorance, en fait, on est complètement inconscient de ce qui est en train de se... On ne sait pas ce qu'est la mort. Et cette non-connaissance, en fait, provoque aussi énormément de peur, mais la mort, c'est un processus complètement naturel. Et encore une fois, peut-être que pour nous, la méditation sur l'impermanence subtile serait beaucoup plus importante pour nous préparer à la mort. Pourquoi ? Il y aurait un avantage énorme, c'est que si vraiment on arrive à assimiler cette sagesse, qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir ? On sera plus calme, on sera complètement calme. Pourquoi ? Parce que cette sagesse, c'est ce facteur de l'esprit qui simplement regarde l'évolution naturelle des choses, qui est une évolution d'instant après instant. Donc, par exemple, pour nous, c'est juste une succession d'expériences. Comme on cristallise absolument pas ce qu'on est, par exemple, au niveau de l'esprit, il n'y a pas cette ignorance qui nous fait croire qu'on dure, par exemple, que notre esprit dure dans le sens qu'il est permanent. Donc, automatiquement, même s'il y a quelque chose de plaisant qui apparaît ou de déplaisant, comme il n'y a pas cette saisie, ce manque de saisie va faire qu'on ne pourra absolument pas développer d'attachement ou d'aversion. Donc, par exemple, si on a complètement assimilé cette sagesse de l'impermanence, quand on va mourir, qu'est-ce qui se passe ? On va être dans cet état de sagesse. Avec quel type d'esprit on va mourir ? Un état d'esprit extrêmement positif, extrêmement serein. Tout ce processus, on verra que c'est qu'une succession d'expériences, mais on ne pourra absolument pas les vivre sur la base de cette ignorance, on ne pourra pas développer d'attachement, d'aversion par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se libère. Donc on a vraiment tout à gagner à entreprendre ce genre de méditation. Donc par rapport aux dissolutions, donc il y a l'esprit de clair lumière, le dernier état en fait de conscience de cette vie-ci. Et par rapport aux visions blanches, rouges et noires, elles sont dues à on pourrait presque dire à un processus physique qui se met en place naturellement à ce moment-là. C'est il y a deux constituants fondamentaux. Un constituant qu'on appelle la substance blanche et l'autre rouge, qui proviennent tout simplement du père pour la substance blanche et de la mère pour la substance rouge. Donc qui correspondrait à un niveau très grossier, tout simplement au spermatozoïde et rouge, on dit le sang, mais en fait à l'ovule. Okay. Et donc le siège, un des sièges principaux en fait de cette substance blanche dans la description un petit peu de corps subtil dans le bouddhisme, elle se situe au sommet de la tête. Et dans la dissolution des éléments, à un moment, naturellement, elle va se mettre à couler le long donc de ce qu'on appelle le canal central, et ça va donner cette apparence blanche. Naturellement, après, la substance de la mer, donc qui provient de la mer, va se mettre à remonter, et il va y avoir cette vision donc rouge, comme si donc le ciel était, on parle d'un ciel, donc ils prennent l'exemple de l'Inde, parce que à l'origine le bouddhisme était indien, et en automne, il y avait des ciels extrêmement purs. Et par exemple, au coucher du soleil, le ciel s'enflammait complètement, il était d'un rouge extrêmement vif, et on a ce genre de perception. Par rapport à la vision blanche qui le précède, il prenait l'exemple d'un clair de lune toujours par une donc nuit d'automne en Inde, où le ciel était complètement dépourvu de toute poussière, donc il y a vraiment une très belle luminosité blanche qui englobe absolument tout, et on a cette perception. Ces deux substances, en fait, elles vont arriver, et elles vont se croiser au niveau donc du chakra du cœur, qui se situe plus ou moins au niveau du plexus solaire à l'intérieur. Et là, on va passer dans une donc expérience complètement donc de perception d'un noir total, et même parfois il parle après d'un moment d'inconscience. Et puis donc après, les deux constituants principaux, en fait, il va y avoir un très léger mouvement de ce qu'on appelle la goutte indescriptible, là où est l'esprit le plus subtil. Il va y avoir un mouvement, et il va y avoir donc, on va relâcher entre guillemets ces deux substances, et on peut voir une petite goutte, par exemple, de rouge de sang apparaître au niveau du nez, et au niveau de l'organe sexuel, une petite goutte blanche. Et en fait, là, d'un point de vue bouddhiste, c'est vraiment une indication que la conscience a quitté, tout simplement, le corps. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une décomposition du corps. Tant qu'en fait que la conscience subtile n'a pas quitté le corps, les signes de décomposition vont pas avoir lieu, et c'est donc comme ça que le bouddhisme explique comment des très grands maîtres qui ont une très grande maîtrise de leur énergie et qui utilisent donc cette méditation sur la claire lumière sont capables de rester des jours, voire des semaines. Il y a eu certains cas où même c'était plus d'un mois dans cette méditation, et donc d'un point de vue scientifique, ils sont morts de mort, mais le corps, même dans des conditions extrêmes d'humidité et de chaleur, ne va pas se décomposer. Par contre, dès que la conscience la plus subtile quitte le corps, là, oui, il y a mort, et donc naturellement, il va y avoir décomposition. Donc pour même un être ordinaire, tant que la conscience la plus subtile est là, il ne va pas y avoir de décomposition. Okay. Armel, le micro.
Juste, donc quand
tiens, on parle vraiment ouais. Dans le micro.
Quand la personne est décédée, quand on l'a laissée, alors on évite de la toucher pour faciliter cette dissolution. Mais quand on vient l'aider par le sommet du crâne ou en lui cherchant la base des cheveux, c'est pour aider à la dissolution ou pour
Non, c'est après on va voir justement qu'est-ce qui va se passer après. Donc là, il y a la conscience qui va quitter le corps. Et là, par là où elle va quitter le corps, était une indication du type de renaissance. Donc en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour stimuler les sorties les plus favorables, d'une certaine manière. Donc en fait, quand on meurt, il est dit que si on meurt avec un état d'esprit vertueux, il va y avoir une dissolution de la chaleur corporelle. Et que cette dissolution, elle va commencer par le bas. Par contre, si on meurt avec donc une attitude négative, on va dire que cette dissolution va se faire plutôt à partir du haut. Mais qu'au bout du compte, en fait, la chaleur, elle va toujours complètement se réabsorber au niveau du cœur, au niveau donc du chakra du cœur. Et après, en fait, donc quand la réabsorption est totale, la conscience va quitter le corps. Et donc, quelles sont les différentes sorties? Il est dit donc dans les textes, en fait, que si on prend une renaissance dans les enfers, la conscience va être éjectée par l'anus. Ensuite, si on prend renaissance donc en tant qu'esprit affamé, là on est en train de voir les six types de renaissance qui sont mentionnés dans les textes bouddhistes, on va donc sortir, la conscience va sortir par la bouche. Ensuite, si on prend renaissance en tant qu'animal, on va sortir par les voies urinaires. En tant qu'humain, par l'œil. en tant que dieu du monde du désir, soit par le nombril, le nez ou l'oreille, un dieu du monde de la forme, donc qui est un monde beaucoup plus raffiné, entre les sourcils, et le monde le plus subtil, en fait, le monde du sans-forme, par le sommet de la tête. Donc en fait, pourquoi on va toucher, stimuler, quand la personne est morte, vraiment le premier lieu dans la tradition bouddhiste, pourquoi on va toucher le sommet de la tête? C'est parce que, donc, ils considèrent que c'est une sortie de la, pour la conscience qui est des plus favorables. D'accord? Aussi, en fait, il y a des techniques bouddhistes qu'on appelle le powa ou le transfert de conscience. Et là, les méditants, les yogis, en fait, ils apprennent tout simplement à maîtriser un petit peu le mécanisme d'éjecter la conscience la plus subtile. Okay. Et donc, ils apprennent d'abord, sous forme de visualisation, à bien visualiser l'esprit le plus subtil, et ils s'entraînent, en fait, à pouvoir essayer de l'éjecter par la fontanelle. Ouais, la fontanelle, et ils visualisent tout simplement l'éjecter dans un endroit extrêmement propice à la pratique. Dans le bouddhisme, tel lieu, par exemple, on peut les appeler les terres pures. Ce qui est intéressant, c'est que des très grands pratiquants, juste par la force de la méditation, de la concentration, il y a des signes physiques parfois qui apparaissent, et il peut y avoir vraiment une ouverture qui va s'opérer au niveau de la fontanelle. Moi, je peux vous dire, par exemple, j'ai reçu d'un très très vieux maître maintenant qui est mort, et qui était un spécialiste du powa, une initiation, c'est-à-dire une introduction à comment faire ses pratiques avec des commentaires derrière. Et entre autres, pendant l'initiation, d'une certaine manière, il met les graines pour pouvoir éjecter la conscience, et il le fait avec un son. Je peux vous dire que quand il mettait le son, vous sentiez vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il avait tendance à vouloir tout simplement partir. Et pour vous dire, il y a, ça va revenir un petit peu la question sur le suicide. Donc il y a des maîtres, des individus qui maîtrisent complètement ces techniques et qui, d'une certaine manière, pourraient à souhait décider du moment de leur mort. À partir du moment où ils décident, ils peuvent éjecter leur conscience, et si la conscience donc quitte complètement le corps, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Donc dans l'entraînement, des fois ils éjectent un petit peu, mais il y a le lien qui est toujours là, puis ils la ramènent, etc. Mais donc à un moment, ils peuvent complètement l'éjecter. Mais en fait, il est dit dans les textes que si on l'éjecte alors que il n'y a pas vraiment de raison de le faire, alors c'est un suicide et c'est plutôt négatif. Il ne faut pas commettre ce genre de choses. Mais je vais vous donner par exemple un exemple. Il y avait juste pendant l'invasion du Tibet par les Chinois, il y avait donc les militaires qui avaient qui étaient venus chercher un très très grand lama. Okay. Et puis donc ils voulaient l'emmener, et puis pour l'emmener en prison, puis très certainement donc le torturer, etc. Et puis ce très grand lama, donc quand ils sont venus le chercher, ils ont dit bon, très bien, d'accord. Et puis ils l'ont fait monter, je crois, si je me rappelle bien, sur un cheval. Et puis ils étaient prêts à partir, et à ce moment-là, le lama a dit oh, juste donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Et puis il est entré en méditation, et hop, il a éjecté sa conscience, ça y est, c'était terminé, il était mort. Donc les Chinois, ils se sont retrouvés avec un cadavre, c'est tout. Donc après, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc on éjecte la conscience chez un être ordinaire, même pour un être réalisé, est-ce que c'est la fin? Donc là, d'un point de vue bouddhiste, vraiment, il y a la mort. Est-ce que c'est la fin? Pas du tout, simplement, il y a la continuité de la conscience qui est là, qui perdure, il y a un renouvellement, donc à chaque instant, de moment de conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les visions qu'on a eues au niveau des dissolutions, elles vont réapparaître dans le sens inverse. Et on va prendre naissance, entre guillemets, dans un état intermédiaire, un bardo. Okay? Un bardo qui a donc différentes caractéristiques. Entre autres, c'est que c'est dans le bouddhisme, on parle de différents types de naissances. Des naissances de la matrice, c'est-à-dire, tout simplement, dans le cas d'un être humain, des mammifères. Des naissances à partir d'un œuf, donc dans le cas de, par exemple, tous les oiseaux, les serpents, les reptiles, etc. On parle ensuite de types de renaissances qui sont faits à base de chaleur et d'humidité. Là, je pense qu'il faut comprendre tout simplement les insectes. À notre niveau, en fait, de perception grossier, on peut voir un mammifère, ben, il attend son petit à l'intérieur dans le ventre. Les oiseaux, on peut voir les œufs. Des insectes vraiment tout petits, des gros insectes, on pourrait voir à la rigueur peut-être tout petit peu les œufs, mais l'environnement général qu'on peut percevoir, c'est quoi ? Humidité et chaleur. Il y a besoin d'humidité et de chaleur pour que la chose puisse se développer. Parce que le principe, de toutes les façons, il est très souvent plus ou moins le même. Si on regarde, même pour un type de renaissance de la partie de la matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est une ovule qui est fécondée. D'accord ? Dans le cas donc d'un oiseau, c'est là encore une ovule qui est fécondée. Très souvent, chez les insectes, en fait, il y a l'union de deux cellules qui vont se développer après. Donc c'est plutôt, je pense qu'il faut vraiment voir ça dans l'environnement général dans lequel va se développer l'individu. Parce que dans la matrice, en fait, est-ce que c'est humide ? Oui. Est-ce que c'est chaud ? Oui. L'œuf, pareil. D'accord ? Donc c'est vraiment à notre perception grossière, donc un petit peu ce qu'on peut percevoir. Et donc un quatrième type de renaissance qui est, parfois on parle de renaissance miraculeuse, mais il faut le comprendre dans le sens renaissance spontanée. Et là, dans le cas des êtres du bardo, des êtres donc de l'état intermédiaire, c'est une renaissance spontanée et automatiquement, donc ils ont tous leurs sens visuels, etc., qui sont, apparaissent et de manière complète. Ensuite, donc, spontanément, ils ont tous leurs membres, etc. Ces êtres, en fait, ils n'ont pas un corps grossier fait de chair, etc., mais plus de lumière, donc ils n'ont absolument pas, il n'y a pas d'obstruction au niveau de la matière. Un tel être, s'il y avait un mur, il pourrait passer à travers la matière. La seule, dans les textes, la seule obstacle qu'ils peuvent rencontrer, il est dit, c'est en fait la matrice de la mer. Et ces corps sont dits indestructibles, puisque justement, ils ne sont pas faits de chair et d'os. Et en fait, ces êtres, ils peuvent se déplacer juste, ils ont une pensée d'être quelque part, instantanément, ils vont s'y rendre. Donc, quelque chose d'assez intéressant, c'est que la période de vie maximum de cet état intermédiaire est 49 jours, mais en fait c'est une succession de 7 cycles de 7. Et entre ces 7 cycles de 7, il va y avoir, à la fin du 7e, une petite mort, encore avec les visions, donc dans un sens, puis dans l'autre. Okay. Et donc au maximum, ça va durer 49 jours. Ça va durer le temps que l'individu a besoin pour, par la force de son karma, de retrouver un support pour une renaissance. Donc ensuite, en fait, il y a différents points de vue selon les textes. Donc après, on peut tout simplement regarder, il y a un texte qui a été composé par Vasubandhu, mais qui correspond un peu plus aux écoles inférieures de philosophie. Et un texte qui a été composé par son demi-frère, qui s'appelait Asanga, et lui, qui est plus présente plus des points de vue plus raffinés. Et est-ce, dans ces textes, il est question de, est-ce que, par exemple, je meurs et je suis dans l'état du bardo pour prendre renaissance en tant qu'être humain. Est-ce que, donc, le fait que je vais prendre renaissance en tant qu'être humain est définitif? Est-ce que je suis obligé de rester dans ce type spécifique d'être du bardo? Donc, les textes inférieurs disent oui. On peut pas changer de type, en fait, d'être du bardo. Les textes qui présentent des vues un peu plus raffinées vont dire oui. Et en fait, d'un point de vue bouddhiste, en fait, quand quelqu'un meurt, pendant cette période des 49 jours, il va y avoir beaucoup de rituels qui sont faits. Pourquoi ? Parce qu'ils se basent justement sur le fait que on peut changer de type. Et si, par exemple, on meurt avec un état d'esprit plutôt négatif, donc on passe dans le processus de la mort, on prend, entre guillemets, renaissance dans cet état intermédiaire, okay. Mais en fait, par la force des conditions extérieures favorables, en fait, ces conditions extérieures favorables vont venir activer un karma positif. Et donc après, on peut passer par une petite mort dans l'état intermédiaire, reprendre une naissance dans l'état intermédiaire, dans un autre type, et on imagine donc, je vais plutôt me diriger dans une renaissance animale. Ces conditions extérieures favorables vont faire que peut-être je vais pouvoir me diriger vers une renaissance positive telle qu'une renaissance humaine. Donc, traditionnellement, dans la tradition bouddhiste tibétaine, quand quelqu'un meurt, pendant ces 49 jours, de toutes les façons, il y a beaucoup de prières, de rituels qui sont faits comme étant des conditions extérieures favorables pour activer les karmas positifs de la personne. Parce que de toutes les façons, on ne va pas pouvoir aller à l'encontre du karma de la personne. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les êtres du bardo ? Ils vont percevoir, en fait, un être du bardo, par exemple, type pour une renaissance humaine, il va voir les autres êtres du bardo du même type. il va pas pouvoir voir des types différents. Il va pouvoir ensuite avoir une taille, par exemple, s'il prend un sens en tant qu'être humain, plus tard, comme un petit garçon, un petit être humain. Après, on va dire aussi qu'ils vont avoir une apparence, un aspect, et des visions. Si c'est des mauvaises renaissances, ils vont voir plutôt des perceptions de fumée, des très obscures, etc. Si c'est des renaissances favorables, ils vont voir des perceptions de luminosité ou par exemple de un linge blanc, etc. Ensuite, même les êtres du bardo ont différentes couleurs. Donc, il est dit qu'un être du bardo qui prend direction pour renaître dans les enfers va avoir une couleur d'une bûche calcinée, en esprit affamé, couleur de l'eau, l'animal, la fumée, les dieux du monde des désirs et les humains, couleur d'or, et puis les dieux du monde de la forme, couleur blanche. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre dans les textes par rapport au bardo. Et donc, après, donc, je finis ça, je laisserai la parole à Philippe. Ensuite, en fait, l'être du bardo, par exemple, s'il prend naissance en tant qu'être humain, il va voir ses parents, il va imaginer, ça va être plus une hallucination, plus une vision, il va les voir dans une étreinte amoureuse, sexuelle, et donc il va vouloir, en fait, il va générer du désir pour l'un ou l'autre. Et là, ça va indiquer le type de naissance masculine ou féminine qu'il va avoir. Et il va vouloir donc se rapprocher la personne vers qui il a l'attraction. Et à ce moment-là, il est dit qu'en fait, il va avoir juste l'organe sexuel. Et il va générer énormément de colère. Et que ce processus d'attachement, de colère, entraîne la mort de l'être du bardo. Et c'est ce qui déclenche après la renaissance. Et puis donc, à un moment, donc là, peut-être autre, il y a vraiment le père et la mère qui sont en union, le spermatozoïde féconde l'ovule, et à ce moment-là, dans les textes, il est dit que la conscience pénètre donc dans l'ovule fécondé, qui va se développer, et là où elle pénètre, en fait, ça va être en fait le centre du chakra du cœur, ce qu'ils appellent donc dans le bouddhisme le cœur, et puis il va y avoir donc un développement avec les membres qui vont se développer, etc. Philippe.
Tu parles de pratiques qui sont faites par des humains pour essayer d'orienter plutôt favorablement la renaissance d'une personne qui vient de décéder, si j'ai bien compris. Comment se fait-il que, puisqu'il y a sur chaque atome de l'univers autant de Bouddhas et de Bodhisattvas qu'il y a d'atomes dans l'univers, ces Bouddhas et ces Bodhisattvas qui n'ont qu'un seul désir, qui est le bonheur de tous les êtres, comment se fait-il qu'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes? Et ils devraient avoir une efficacité quand même, je pense, supérieure.
Donc, naturellement, effectivement, par la compassion et l'amour illimité, un être qui obtient l'éveil génère un nombre infini de formes pour venir en aide aux êtres. De son côté, il n'y a aucune limite. Par contre, il y a une limite énorme, c'est tout simplement du côté des êtres à aider. Le karma des êtres à aider, est-ce qui fait obstacle à pouvoir recevoir plus ou moins de l'aide. Plus il y a un karma positif, plus on peut recevoir, par exemple, une énergie inspiratrice qui va nous permettre de nous développer. Plus il y a un karma négatif, plus on se ferme à cette aide. Et donc, après, il y a un facteur qui est extrêmement important, toujours au niveau de ce karma, c'est les relations karmiques qu'on a avec les êtres. Les êtres avec qui on vit, ici et maintenant, on a une relation extrêmement forte, extrêmement particulière. Il y a un très grand impact. De par cet impact, en fait, cette relation, comment on va dire, une relation avec deux gens qui sont très proches. Non, pas fusionnelle, moins quand même. Intime, oui. Une relation intime, nos comportements, nos actions, etc., vont avoir un impact plus important que ceux des Bouddhas. Et donc, en fait, de par cette proximité, quand un de nos proches nous quitte, nos activités vertueuses vont avoir un impact qui vont pouvoir bénéficier beaucoup plus facilement directement la personne, de par cette connexion karmique. Alors qu'il peut y avoir peut-être des connexions karmiques avec des bouddhas, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles, donc beaucoup plus inefficaces. Peut-être tout simplement aussi, ils n'ont absolument aucune connexion karmique, donc ils ne peuvent pas recevoir cette aide. Tout simplement, on peut voir comment ça marche. Vous pouvez être animé des meilleures intentions du monde, vraiment avoir l'amour et la compassion, vraiment vouloir le bien à une personne. Si la personne ne veut pas de votre aide, ça ne va pas passer. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce que je suis en train de dire. Dans le cas de pratique faite par des humains, par rapport à quelqu'un qui vient de décéder, si les pratiques sont faites par des humains. Mais là, au niveau karmique, il y a eu un lien très fort qui fait que, quand même, donc, il va y avoir une incidence. Si j'essaie de faire quelque chose, par exemple, j'essaye de t'aider, tu peux refuser mon aide. Mais le fait que j'ai une interaction avec toi, ça va avoir quand même un effet sur toi. Et là, bon, ben, c'est tout simplement créer les conditions les plus favorables pour la personne. Et d'après, en fait, il y a un autre facteur que j'ai pas mentionné par rapport au bardo. C'est donc, dans les textes, il y a différentes variantes. Là, je vous ai présenté l'explication qui est acceptée par cette lignée dans laquelle se trouve ce centre. Mais il y a d'autres lignées, par exemple l'école Nyingmapa qui va dire que donc l'école Gelugpa, elle dit on l'être du bardo a l'aspect, la forme de la renaissance qu'il va prendre. Les autres textes Nyingmapa par exemple vont dire il va avoir l'aspect, la moitié du bardo, l'aspect de la naissance qu'il avait eu auparavant et l'autre moitié sa renaissance future. D'autres textes encore apparemment disent il a l'aspect de la présence de l'existence passée. Mais l'être du bardo, en fait, dans tous les cas, lui, à ce niveau-là, il a coupé le contact avec ce monde. Okay? Donc, d'une certaine manière, si on génère des choses positives, il n'a pas conscience que directement, en fait, c'est nous qui le faisons. Et toutes les façons, là, c'est vraiment aussi, c'est un être relativement sensible et il sent vraiment l'amour et la compassion, il est touché par cet amour et cette compassion, et si on envoie une énergie pour l'aider, généralement il apprend. Dans les textes, il mentionnait aussi que ces êtres, on les appelle parfois des mangeurs d'odeurs, parce qu'ils ne se nourrissent absolument pas de nourriture grossière, mais ils vont se nourrir tout simplement de parfums, d'odeurs. Et il y a des rituels bouddhistes qui sont entre autres effectués dans les cas de décès d'une personne, c'est par exemple de prendre du charbon de bois, et puis de brûler de la farine d'orge, grillé avec du beurre, etc. Et ça dégage donc un arôme. Et il est dit que donc les êtres vont pouvoir profiter de cette nourriture. Et d'une manière générale, quand il y a une attitude positive qui leur est envoyée, ils l'apprennent. Donc dans les grands maîtres réalisés disent que par rapport au niveau des rituels, généralement si on fait des rituels positifs à leur égard, l'énergie leur est dédiée et ils peuvent en profiter et donc il y a une alchimie qui se fait qui fait que ils peuvent prendre une direction plutôt positive. Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement important, je pense par rapport à ce que tu dis effectivement, c'est quand la personne est en train de mourir. Il y a différents un petit peu points de vue là-dessus, mais par exemple le Dalai Lama dit ce qui est extrêmement important, c'est que la personne meurt avec un état d'esprit très tranquille. Il y a des lamas qui disent c'est très bien de réciter par exemple des mantras à l'oreille de la personne quand elle meurt. Mais si la personne, par exemple, est extrêmement fermée par rapport à ça, est extrêmement réfractaire et même développe l'aversion par rapport à ça, okay, si on récite les mantras, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'énerver. Et donc le Dalai Lama dit c'est surtout pas quelque chose à faire. Parce que des fois, on est au niveau de comment on met en pratique un petit peu notre spiritualité, c'est vraiment d'une manière extrêmement fermée, égotique, fermée, réduite. Et puis, on dit « Ah oui, oui, c'est vraiment bon, même si elle veut pas, on le fait. » D'accord ? Et là, elle, par exemple, elle développe une attitude extrêmement négative et le Dalai Lama dit « Là, c'est pas bon du tout. » Lama Zopa, une fois, a dit, même si l'être s'énerve, de par les empreintes qui sont posées, c'est bon. je me sens plus confortable avec la position de sa sainteté. Donc après, c'est fort possible que la Mazepa Rinpoche ait une perception, une clairvoyance tellement puissante, qui va tellement loin, que peut-être que effectivement il voit qu'au bout du compte il y a des bénéfices. Moi personnellement, donc j'opte pour le conseil de sa sainteté le Dalai Lama, de vraiment donc créer un environnement le plus favorable pour la personne par rapport à ce qu'est la personne, pas par rapport à ce que nous on imagine être un environnement favorable. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, il y a la Mazepa, parfois il conseille, donc là c'est, j'en profite pour lancer un petit message à Violette. Donc il y a, dans le bouddhisme, on dit qu'il y a le pouvoir du mantra, des bénédictions, etc. Et quand un animal est blessé, mourant, etc., ou une personne, on peut lui faire écouter des mantras. Je pense qu'il faut le faire vraiment avec bon sens et avec raison. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir donc le pouvoir du mantra. Et d'une certaine manière, on force l'autre à être confronté à cette expérience. Et si on met par exemple le volume trop fort ou trop longtemps, imaginez, vous êtes malade, on vous met un son quelconque, plus ou moins harmonieux, okay, mais très fort, de manière constante, sans pause. Il y a des moyens de torture, qu'est-ce qu'on fait? Mais des moyens vraiment de torture, hein, pour rendre les gens fous, qu'est-ce qu'on fait? Encore et encore et encore. Donc c'est vraiment aussi quand on essaie de faire quelque chose de qui pour créer des empreintes chez l'autre ou etc. C'est vraiment dans le bon sens, en prenant conscience vraiment de ce que l'autre aussi par rapport à donc sa renaissance, par rapport à son support, etc. Et essayer de voir qu'est-ce qui est donc le juste milieu aussi par rapport à lui. Donc là, je pense que c'est extrêmement important. Donc, le mieux, c'est toujours, toutes les façons, mieux vaut prévenir que guérir. Donc après, je pense que ce qui est important, c'est par rapport à quelqu'un qui est en train de mourir, effectivement, c'est que la personne qui est en train de mourir exprime un petit peu, tout simplement, ses souhaits, et puis qu'après, l'entourage essaye de suivre au mieux les souhaits de la personne pour pas générer des tas de contrariétés chez elle, qui seraient donc plutôt, là, vraiment... préjudiciable pour elle. Donc encore une fois, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de bien prendre le temps. Qu'est-ce que je raconte? Bien prendre le temps. Il n'y a plus le temps. Donc par rapport, donc quand quelqu'un meurt, c'est de vraiment créer cet environnement le plus favorable, de pas aller contre, etc. Et nous après en tant qu'individu, c'est essayer au maximum donc de bien se préparer à ce moment, ok. Mais d'une certaine manière, on n'est pas même obligé de se focaliser sur ce moment. Si on vit ici et maintenant, vraiment, en ayant une attitude, par exemple, d'être dans le présent, et en étant dans le présent, de créer des causes de bonheur, c'est-à-dire d'éthique, de sagesse, encore une fois. La mort, c'est absolument pas un problème. Si ici et maintenant, dans le présent, on essaye vraiment d'avoir une attitude altruiste, c'est parfait. Et au moment de la mort, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil. Là, on va voir justement, pour préparer le moment de la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes pratiques. Donc, on a vu, il y a la pratique du powa. Mais il y a aussi une pratique qui s'appelle la pratique d'utiliser 5 forces au moment de la mort. Ces 5 forces, c'est donc... j'ai oublié de te dire, Gisèle, entre autres. Tout ce qu'on est en train de voir se trouve au chapitre... au chapitre 15, de la page 231 à 240. Espace, ben on a vu l'espace, l'être du bardo, il est donc, Myriam, tu me demandes, j'ai parlé au niveau du temps, mais au niveau de l'espace. Une des caractéristiques de l'être du bardo, c'était quoi? De ne pas être obstrué par la forme. Et tout simplement, il suffisait qu'il pense être à un endroit, instantanément, il se rendait dans cet endroit. Donc, au niveau de l'espace, il n'est pas limité par une quelconque obstruction Et mentalement, presque on pourrait dire, il se déplace à la vitesse de l'esprit. Ça répond à la question un peu ou pas? Et c'est tout simplement là, il est dans un état où il va justement après pouvoir prendre renaissance dans un niveau d'existence, soit humain, soit animal, soit des enfers, soit après du monde des dieux du désir. Donc tout ça, ça appartient à un niveau relativement grossier d'existence, à des niveaux beaucoup plus subtils. Après, le monde des dieux, donc de la forme, et les dieux du sans-forme. Donc après, dans les textes bouddhistes, les vieux textes bouddhistes, il y a une description cosmologique précise de où est-ce qu'on peut trouver un petit peu certains de ces mondes. Mais là, le Dalai Lama dit ça, c'était des textes qui ont été écrits par rapport un petit peu à la culture tibétaine, la culture indienne, et qui se basait un petit peu sur la compréhension de ce moment-là, de comment était le cosmos, etc. Et la science, l'expérience de la science a montré que le monde n'existe pas du tout comme ça, donc on peut pas y croire. Mais je pense que ce qu'il faut voir là, c'est que pour beaucoup, en fait, où est-ce que se situent les choses, ça dépend complètement de la qualité du niveau d'esprit, de degré de grossièreté ou de subtilité d'esprit. Et quand il y a des niveaux relativement proches, par exemple, il peut y avoir différents types de renaissance, là je pense humain, animal. On a un mode de fonctionnement d'esprit qui est relativement sur le même niveau, donc on vit dans un même espace. Il y a des êtres qui ont des niveaux d'existence beaucoup plus subtils, donc on ne peut pas y avoir accès de par justement juste le blocage qui est fait au niveau de la grossièreté de l'esprit. Et peut-être qu'à la rigueur, des êtres du bardo, ils pourraient être dans un espace relativement proche de nous, mais on ne peut pas y avoir accès juste de par, en fait, la grossièreté de nos perceptions. Il est dit qu'il y a des êtres du bardo, en fait, ils peuvent être perçus par des êtres qui ont une certaine clairvoyance. Et par exemple, justement, les lamas qui font le transfert de conscience, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils arrivent à trouver la conscience de l'être, précisément, et ils ont une telle maîtrise, en fait, des énergies, etc., qu'ils arrivent à, d'une certaine manière, crocheter la conscience de cet être et à l'envoyer dans une renaissance extrêmement positive. Mais ça implique une connexion karmique extrêmement forte, un lien karmique extrêmement fort avec un lama qui est doté vraiment de très très grande qualité. Parce que c'est facile là de dire j'ai les qualités pour le faire, de remuer une cloche, etc. Et puis donc de faire croire ce qu'on veut aux gens. De vraiment avoir les qualités d'une telle maîtrise, c'est beaucoup plus rare. Ok. Donc les cinq forces au moment de la mort. Il y a cinq forces, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Et puis, là, spécifiquement au moment de la mort. Donc, j'énumère juste d'abord les cinq forces. La force de l'intention bénéfique, la force de la graine blanche, la force de la destruction. Et sur la page 7, qui a disparu? Donc, j'ai fait essayer de mémoire. Bénéfique, la graine blanche, la destruction. La dernière, c'est la dédicace, et l'avant-dernière, c'est de la familiarisation, je pense. L'accoutumance ou familiarisation. Donc, par rapport à la pratique au niveau du bouddhisme tibétain, au niveau des sutras, on va la mettre en relation, cette pratique, beaucoup par rapport à l'esprit d'éveil. Donc, l'intention, ça va être de pouvoir maintenir cet esprit d'éveil maintenant, dans cette vie, pendant le processus de la mort, pendant le bardo, les renaissances, et en fait pouvoir la maintenir jusqu'à l'obtention même de l'éveil. La force de la graine blanche, ça va être, là, au moment de la mort, se débarrasser en fait de toute forme d'attachement. Et ce qui est préconisé, c'est que, donc justement au niveau de nos possessions, de avant de mourir, si on sait donc qu'on est proche de la mort, c'est de pouvoir donner toutes nos possessions, parce que nos possessions, on ne va pas pouvoir les emmener avec nous. Donc d'une certaine manière, là, ça, nous, on peut le faire. Hein, sur le testament, on prépare un petit peu tout bien. Et puis, si on voit qu'on est vraiment au bord de mourir, vraiment régénérer cette forte intention de tout donner. La force de la destruction, là, c'est détruire en fait toutes les attitudes opposées à l'esprit d'éveil. Donc essentiellement, surtout les attitudes d'autochérissement. Donc les attitudes qui sont complètement centré sur soi-même, sur la recherche du propre bonheur. D'une manière générale, on peut détruire tous les potentiels négatifs, donc essayer de détruire tous les karmas négatifs, toutes les perturbations mentales. Une purification, c'est faite à l'aide de quatre forces. Donc la force du support, la force de l'antidote même, la force du regret et la force de l'intention. Donc un peu plus en détail, la force du support, c'est l'action négative, elle a été générée sur la base d'un support. Quel est ce support ? Soit un autre être, par exemple un être humain, soit par exemple sur des objets extrêmement valeureux, donc dans le bouddhisme on va dire les trois joyaux. On a eu une attitude négative à leur égard, là on va développer une attitude opposée, positive, par rapport à des êtres humains, à d'autres êtres. Quelle est l'attitude la plus remarquable ? L'esprit d'éveil. Donc on génère l'esprit d'éveil. Quelle est l'attitude la plus remarquable, qui est l'opposé par exemple d'un manque de respect envers les trois joyaux ? La foi qui nous pousse à prendre refuge. Donc en fait, la force du support, c'est générer la prise de refuge et l'esprit d'éveil. Donc là, il faut bien voir, c'est tout simplement, il y a une force négative, on va la contrecarrer par son opposé, une force positive. Force négative envers un être humain, je veux lui nuire, je régénère l'opposé, je génère une aspiration extrêmement belle à son égard. D'accord ? Il y a l'action elle-même, négative, qui nuit. Là, je vais créer n'importe quelle action positive et me servir de cette énergie positive pour contrecarrer ce potentiel particulier. Ensuite, il y a tout simplement la force du regret qui est de reconnaître cet aspect négatif de l'action, comment il est nuisible, comment il la nuit tout simplement à la personne, comment il est une cause pour nous-mêmes nuire. Finalement, la force de l'intention qui est de générer l'intention de ne pas reproduire une telle action. Donc après, dans le bouddhisme tibétain, il y a les pratiques de purification type, telles que les prosternations aux 35 Bouddhas, la récitation du mantra Vajrasattva, d'autres pratiques telles que vous connaissez pas, telles que ce qu'on appelle Dorje Kadro, la pratique de Dorje Kadro, les pratiques de Samaya Vajra, etc. Mais donc n'importe quelle énergie positive peut être utilisée pour neutraliser ces aspects négatifs. Donc vous pourriez réciter des sutras, vous pourriez réciter des mantras, etc. On peut faire des pratiques de Nyune. Donc une pratique de Nyune, ce qu'il faut voir, c'est pas vraiment à proprement parler une pratique de purification. Souvent on dit ça parce que c'est dur. Donc on dit comme on en bave, c'est on purifie. Mais les pratiques de Nyune, c'est une pratique de du tantra extrêmement profonde, avec auxiliairement grande accumulation de mérite, purification. Mais après c'est aussi des yogas, des méditations profondes pour transformer des aspects négatifs qui sont en nous, en des aspects positifs. Donc là, pour vraiment pouvoir entreprendre ces aspects-là, il faut recevoir l'initiation, les commentaires, et puis donc on nous explique comment faire. Et d'une manière générale, le tantra, c'est quoi ? C'est prendre le résultat comme chemin, c'est-à-dire on regarde le résultat, l'état de Bouddha, et on apprend à fonctionner comme un Bouddha, d'abord au niveau de l'imagination. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour préparer sa mort ? Dans le tantra, il y a des pratiques très très précises. Et dans le plus haut niveau de tantra, d'une manière générale, on dit il y a la mort, il y a la renaissance, il y a l'état intermédiaire, et il y a la renaissance. Et il y a des pratiques où justement ces processus, à l'heure actuelle, ils sont des processus qui sont complètement contaminés par notre ignorance. Ce qu'on est ici maintenant, dans cette vie, c'est l'expression de l'ignorance. C'est l'expression de mon attachement, c'est l'expression de mon aversion. Ma mort, je vais la vivre, et ce sera encore, tout simplement, l'expression de ces énergies. L'état intermédiaire, pareil. Donc là, on apprend en fait à comprendre que la base de ce que je suis, c'est quoi ? L'esprit le plus subtil. Est-ce que lui, il est contaminé par ce mode de fonctionnement ? Non. Donc c'est la base, même pour ce que je suis, mais donc de cette base, de ce potentiel illimité, il y a eu donc, par l'ignorance, l'utilisation de ce potentiel qui entraîne de la souffrance. Là, dans un premier temps, au niveau de l'imagination, puis en réalité, on apprend à retourner à cette essence et on apprend à ne plus fonctionner sur la base de l'ignorance, de l'attachement, de l'aversion, mais on apprend à fonctionner sur la base de la sagesse. On apprend à fonctionner sur la base de, tout simplement, une attitude extrêmement altruiste, et on apprend Donc à jamais se départir de la sagesse. Et si on manifeste quelque chose, c'est d'une manière contrôlée, c'est pas du tout de manière inconsciente et donc manifestation d'ignorance. Ça va être une manifestation uniquement pour aider les êtres. Donc à ce moment-là, en fait, on apprend complètement à purifier le processus de la mort, au lieu donc de le cristalliser et de dire vraiment c'est des expériences réelles qui existent en soi, etc. Non, on apprend à vivre tout le processus avec sagesse. On apprend à retourner à l'essence de ce qu'on est et d'unifier cette essence à la sagesse. Donc là, on a purifié le processus de la mort sous sa forme purifiée, ça devient un corps de Bouddha, un aspect de Bouddha. L'état intermédiaire, au lieu donc de ressurgir sur la base de l'ignorance, on va utiliser donc cet état intermédiaire sur la base de la sagesse pour générer une forme extrêmement subtile qui va être perceptible par des êtres extrêmement avancés, mais qui ont encore un besoin d'aide. Donc là, on prend et on purifie l'état intermédiaire dans une forme des corps de Bouddha qu'on appelle le corps de jouissance. La renaissance, au lieu donc de la prendre sous la base toujours de cette ignorance, on apprend à former, à générer une multitude de formes pour aider les êtres. Et là, on transforme donc la renaissance en ce qu'on appelle le corps d'émanation. Après, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour vraiment préparer sa mort? Ben, tout simplement, encore une fois, c'est ici et maintenant vraiment bien pratiquer. Si ici et maintenant, on résout nos problèmes, c'est-à-dire tout simplement on abandonne les causes d'expériences négatives, d'expérience de souffrance future par une éthique, même si on meurt, où est-ce qu'on va aller? Dans une renaissance où on va expérimenter des conditions favorables, d'accord? Encore plus important, donc ça c'est la base, c'est extrêmement important, mais une réponse encore plus profonde, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer, ben ça c'est déjà de la pratique. Pour résoudre le problème encore plus profondément. Éliminer l'ignorance, comment? En développant la sagesse. Donc encore une fois, je mets énormément l'emphase sur la sagesse, mais pour pleinement développer la sagesse, il faut l'unifier à la concentration. Il faut développer une très grande aptitude à la concentration. Donc, en faisant ça, en développant la sagesse qui réalise directement l'impermanence subtile, en réalisant la sagesse, là surtout, qui est donc l'antidote universel, la sagesse qui réalise la vacuité ou donc l'interdépendance, on résout définitivement tous nos problèmes. On ne devient plus une source de problèmes pour les autres. Okay? Si on fait un petit peu, on entreprend ces pratiques, ça veut dire qu'on va être moins en contact avec les autres d'une certaine manière. Il nous faut du temps un peu pour méditer, etc. Ouais? Donc vous pouvez dire, bon, ben, pour les autres, c'est pas très bénéfique. Mais regardez, à l'heure actuelle, on est tellement, en fait, d'une certaine manière, on a tellement d'aspects négatifs. Qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment de positif aux gens? L'aide qu'on peut leur apporter, elle est extrêmement limitée si on peut leur apporter. Très souvent, on leur apporte pas de l'aide, on leur apporte des problèmes. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'isoler pour méditer. Ça leur fait du bien. Vous les soulagez. Parce qu'ils vous font croire, en fait, oh, tu nous as manqué. Mais en fait, non, par derrière, ils sont là. Oh, quel soulagement! Donc là, il faut prendre du recul, il faut être un petit peu honnête avec soi-même. Regardez généralement les relations humaines, c'est une source de problèmes, de problèmes, de problèmes, et occasionnellement, une source de bienfaits qui sont très passagers, très furtifs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc là, justement, on a cette renaissance humaine, il faut vraiment essayer de l'utiliser de manière intelligente pour nous-mêmes et pour les autres. Et entre autres, ça veut dire développer ses qualités. Dans un premier temps, on a besoin aussi d'espace pour pouvoir développer ses qualités. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut complètement s'isoler. Je suis en train juste de dire qu'il faut, dans un juste milieu, aussi prendre du temps pour soi pour pouvoir développer ses qualités intérieures, telles que la concentration, la sagesse. Après, il faut vraiment essayer de mettre en pratique ce qu'on aura développé dans la méditation, dans nos relations avec les autres. Okay? Et par exemple, donc la base, ben tout simplement, c'est l'éthique. Et regardez comment l'éthique va déjà résoudre des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique par rapport à l'autre? On le respecte, on ne va pas lui nuire. Même une éthique du Bodhisattva, c'est donc s'abstenir de commettre des négativités, c'est accumuler des vertus Et c'est aussi œuvrer pour le bien des êtres. Donc, œuvrer pour l'autre. Donc déjà, sur la base de cette éthique, pour l'autre, on est moins de problèmes. Même si l'autre, il veut faire des conneries et puis on veut pas le suivre, ok, quand il dit non, 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 il est pas content. Mais au bout du compte, est-ce qu'on l'encourage dans son attitude? Non. Donc c'est même une attitude bénéfique pour lui. Donc après, au niveau de la sagesse, là, est-ce que la sagesse va nous interdire d'avoir une relation avec les autres? Non, mais en fait, ça va permettre au contraire d'améliorer la relation qu'on va avoir avec l'autre. Pourquoi? Le problème avec l'autre, d'où est-ce qu'il apparaît? De notre attachement ou notre aversion? Cet attachement et cette aversion, ils sont créés sur quoi? Sur la base de l'ignorance. Donc si on neutralise l'ignorance par la sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus y avoir d'aversion, plus y avoir d'attachement. Donc au niveau de la relation, ça va plus être une relation problématique de notre côté. D'une certaine manière, même, on va devenir quelqu'un qui possède la solution pour l'autre. Donc s'il la veut, il pourra la prendre. Sur la base de cette sagesse, on crée un espace, en fait, où il va être beaucoup plus facile de développer même une attitude qui est concernée par l'autre. Une attitude qui se préoccupe de l'autre. Une attitude qui souhaite que l'autre vraiment puisse aller vers du bonheur, donc aller vers une attitude d'éthique pour obtenir les fruits du bonheur. Une attitude qui souhaite vraiment que l'autre puisse développer de la sagesse, parce que la sagesse va lui permettre de vraiment résoudre ses problèmes. Une attitude qui souhaite peut-être qu'il a, cet être, il a un potentiel illimité, donc il utilise ce potentiel illimité, pas juste pour développer la sagesse, mais développer toutes les qualités qui vont lui permettre après d'aider aussi autrui. Okay? Et juste essayer d'imaginer, si vous arrivez à développer ça en vous, ou si quelqu'un arrive à développer ça en lui, au niveau des relations, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste être vraiment un être qui, dans la relation avec les autres, va être uniquement là pour créer des choses vraiment constructives. Ça ne veut pas toujours dire que vous allez aller dans le sens des autres. Parce que si l'autre, il est motivé par des attitudes négatives que d'aller dans son sens, c'est pas forcément bénéfique. Donc après, il va falloir, c'est clair, associer cette sagesse avec vraiment cette capacité, cette habileté à voir qu'est-ce qui va être juste, qu'est-ce qui va être le plus approprié pour l'autre. Philippe, puis après madame.
Par rapport à ce que tu viens de dire, il me vient une réflexion suite à, disons, des conversations que j'ai eues ou d'autres expériences précédentes, c'est que les maîtres n'enseignent pas tant que les disciples ne leur ont pas demandé.
C'est moins vrai de nos jours, parfois.
Sans doute.
Parfois. Mais,
je pense qu'il y a un danger qui nous guette toujours, je pense, c'est que quand on est enthousiasmé par quelque chose qu'on a découvert ou que l'on pense être juste et bon pour nous, de vouloir effectivement l'imposer à d'autres personnes. Donc je crois que ça, c'est quand même un danger dont il faut qu'on soit toujours extrêmement conscient et que, je reviens un petit peu sur la masopa qui souffle quand même des mantras dans les oreilles des gens qui ne sont pas prêts à les entendre, je crois quand même qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, la non-violence, c'est quand même un état d'esprit qu'il faut qu'on garde en permanence vis-à-vis des gens avec lesquels nous ne partageons peut-être pas les mêmes opinions. Et voilà.
Et donc là, c'est un aspect extrêmement, extrêmement important. Et je pense que parfois, la sagesse, ce qu'on appelle dans le bouddhisme les moyens habiles, c'est de voir que il est mieux, par exemple, de se taire que de dire quelque chose. Parfois même, quelqu'un peut vous présenter quelque chose, et de votre point de vue, c'est vraiment pas quelque chose, une vue juste ou correcte ou etc. Mais parfois, la sagesse va vous dire, c'est même pas la peine d'essayer d'argumenter avec la personne. Ce qu'il faut voir, c'est que on en est à un point précis, avec des caractéristiques, des qualités, etc., des défauts. Les autres sont complètement autre chose. Et comme tu le dis, ce qui fonctionne pour nous ne va peut-être pas fonctionner pour les autres. Ou pas fonctionner sous cette forme-là. etc. Donc après, justement, si on veut vraiment aider les êtres sincèrement, une des qualités qu'il faut arriver à développer, c'est vraiment apprendre d'être à l'écoute de ce qu'est l'autre, pas de ce qu'on imagine être de l'autre. Apprendre à développer des qualités qui vont nous permettre de voir vraiment qu'est-ce qui va être bénéfique à l'autre, parce qu'on pense être bénéfique à l'autre. Et dans le bouddhisme, des fois, dans certains textes, on peut nous dire que si on n'a pas de clairvoyance, en fait, ça va être vraiment difficile d'aider les personnes. Parce que, justement, on ne sait pas comment on va réagir l'autre par rapport à ce qu'on avance. Donc, si on n'a pas ces qualités, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, tranquillement, commencer et voir comment réagit la personne. Et si la personne, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu un blocage, c'est tout simplement être humble et s'apercevoir que notre manière d'aborder la chose ne lui convient pas. Donc, ça ne sert à rien de faire du forcing. Okay. Et c'est donc vraiment aller en comprenant ce qu'est la personne. Et parfois, il y a, je pense, des grands maîtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que de donner vraiment une méthode de transformation, c'est pas le moment avec une personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Juste créer un lien avec la personne qui va faire que plus tard, ils vont se retrouver. Et que peut-être plus tard, les conditions sont différentes, les prédispositions de la personne sont différentes. Et à ce moment-là, ils pourront leur donner quelque chose. Et parfois, peut-être, tout simplement, au lieu d'essayer de faire des beaux discours, etc., quand on rencontre quelqu'un, on peut tout simplement se mettre un petit peu à son niveau et échanger des choses qu'il aime. Même si, par exemple, je prends un exemple tout bête, vous pouvez ne pas aimer le football. Okay ? Mais vous êtes dans le train, puis il y a quelqu'un en face de vous. Tout simplement, on peut penser, là, on est en train de se rencontrer. Ce qu'on va créer ensemble, c'est une cause pour ce qu'on va être dans le futur. On peut avoir une attitude juste fermée. Ça va avoir un impact. Ça va créer, donc, de relations futures qui sont pas très productives. Il y a, donc, se dire, moi, je suis le Messie. Donc, je vais lui apporter ce qu'il faut. Et puis, donc, tout simplement, le mec, il le prend mal. Et puis, il se braque. Ou alors, tout simplement, après, c'est de se dire, ok, dans le futur, là, peut-être je peux pas lui parler de choses importantes telles que, tout simplement, les causes, les effets, la sagesse, machin, l'altruisme. Mais c'est pas grave. Je passe un bon moment avec lui, je crée une connexion avec lui qui va faire qu'on va se retrouver plus tard. Les conditions seront peut-être plus tard. Et si on fait une aspiration que les conditions soient à ce moment-là plus favorables, il y a très fortes chances que ce soit favorable. Et à ce moment-là, par exemple, on parle du foot. Et on ne dit pas « je suis le Messie », mais on parle de Lionel Messi. Et à ce moment-là, donc, on crée quelque chose, une connexion. Donc, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un. Et donc, il faut prendre du temps pour soi, pour pouvoir développer des qualités. Mais parfois, animé d'une bonne motivation, on peut passer du temps avec des gens, pas trop fréquemment, parce que sinon, c'est juste une perte de temps. Mais créer des liens par rapport à certaines petites choses qu'ils aiment, etc. Donc là, par rapport, tu sais, tout à l'heure quand on me parlait, s'il y a vraiment, petit à petit, on choisit plus un parcours de transformation intérieure. Donc, il y avait des choses qu'on faisait auparavant, peut-être on n'a plus envie de les faire. Avec des gens, par exemple, on pouvait sortir, etc. Bon, d'une manière générale, on va sortir beaucoup moins, mais occasionnellement, donc en restant donc dans une limite relativement sobre, etc., on peut aller passer un petit moment avec eux, etc. Donc comme ça, non plus, on coupe pas trop les ponts. Mais je pense que c'est important vraiment aussi de se dire, là on a cette opportunité elle va pas durer tout le temps, donc il faut vraiment l'utiliser. Et il faut qu'on mette vraiment une emphase là-dessus. Sinon on va mourir, et c'est clair et net, on se sera pas du tout préparé, on se sera pas du tout transformé. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de la souffrance. Puisque tout simplement on a été dans des fonctionnements qui créent cette souffrance, on a créé les causes de cette souffrance, ça va continuer encore et encore. Donc vraiment, en résumé de ce week-end, on peut dire on a un potentiel extraordinaire. Mais on peut vraiment faire des choses mais hallucinantes. Dans le sens bouddhiste, dans le sens spirituel du terme, d'accord? Est-ce que on va être suffisamment stupide, fou, pour laisser passer cette opportunité qui nous est donnée? Parce qu'ici et maintenant, on a cette opportunité. Si on laisse passer cette opportunité, c'est clair et net, il va y avoir des difficultés. C'est clair et net, à un moment, il va y avoir des très grandes difficultés. Prenez les situations sur cette terre d'expériences d'êtres qui sont les plus terribles. Pays en guerre, etc. Si on n'utilise pas le potentiel qu'on a là, ici, maintenant, l'opportunité qui nous est donnée, qu'est-ce que ça veut dire, en gros ? Que, très certainement, au bout du compte, à un moment ou un autre, si ce n'est pas déjà fait, on va créer des causes pour se retrouver dans ces situations. Et quand on sera dans ces situations, ça ne servira à rien de se dire « Ah, mais pourquoi ?» Pourquoi, etc. Et d'être dans un état de non-compréhension et où on peut juste subir ces souffrances. Là, ici et maintenant, on a cette capacité de réflexion, de prendre du recul et justement de prendre les choses en main. Donc, si on veut vraiment le bonheur, eh ben, il faut qu'on en crée tout simplement les causes. Et créer les causes, c'est ici et maintenant, en prenant vraiment conscience de qu'est-ce qui est important dans la vie et donc de vraiment se donner les moyens aussi d'aller vers ça et d'accomplir ça. Tout en ayant tout simplement aussi une vie où il faut qu'on prenne soin d'un besoin vital de base, manger, dormir, se vêtir, etc. Une certaine mesure, une vie sociale, oui. Mais donc aussi, on prend vraiment soin de cette opportunité, on utilise cette opportunité. Des questions ? Marc, c'est ça ?
Tout à l'heure, on a parlé, en fait, lorsqu'on se trouve dans l'état intermédiaire, le bardo, et qu'on va se réincarner, en fait, à ce moment-là, il y a notre future mère, notre futur père, donc ils sont ensemble. Et c'est à ce moment-là donc, qu'on se réincarne à première vue.
Donc d'abord, on est dans l'être du bardo, et on imagine le père et la mère et qui sont en union. Et on développe... en fait, une attirance plutôt pour le père ou pour la mère. Si on développe une attirance pour le père, c'est-à-dire qu'on va prendre une essence féminine. Si on a une attirance plutôt pour la mère, ça veut dire qu'on va prendre une essence masculine, donc il est mentionné dans les textes. Et à ce moment-là, on développe donc une attirance, un désir pour la personne. Et il y a un processus, donc je ne sais pas pourquoi il a lieu, mais on va voir l'organe sexuel de la personne, et ça va nous irriter, ça va tout simplement faire générer qu'on génère de la colère.
C'est pour ça que je voulais poser une question, parce que dans mon cas de figure, en fait, comme on a eu des difficultés pour avoir un bébé naturellement, on est passé par une FIV. Donc le jour de
par
la
une...
fécondation in vitro.
Oui.
Donc le jour de la fécondation, on n'était pas là. Ça s'est passé dans une éprouvette.
Donc là, je pense que le processus, il est plus ou moins similaire. C'est l'être du bardo imagine le couple. Il y a tout ce processus, ces processus mentaux sont ce qui justement enclenche la mort de l'être du bardo et enclenche la renaissance. Et donc après, quand il y a la fécondation in vitro, peut-être qu'à ce moment-là, donc là, il faudrait vraiment développer des hauts niveaux de clairvoyance pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Mais peut-être que quand il y a la fécondation in vitro, il y a une conscience qui intègre. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois que donc des médecins etc vont féconder in vitro une ovule, il va y avoir un être, une conscience qui va l'intégrer, puisque après donc il faut mettre dans la matrice l'ovule fécondé etc.
Ils en fécondent plusieurs. Dans notre cas, c'était 12. Donc après, ils peuvent même en garder, les congeler.
Donc après, même je crois que dans généralement, ils peuvent en introduire plusieurs. Après, donc là, on rentre dans des détails que j'ai un peu du mal à suivre. Mais donc après, est-ce que, par exemple, si on introduit trois ovules fécondés, est-ce que ça veut dire qu'il y a trois esprits qui sont là et que après, à cause du karma, il y en a qui meurt ou etc.
Quand on en introduit trois, il peut y avoir des jumeaux, des triplés.
Des triplés, ou il peut y avoir juste même un. Donc après, là, si on se questionne, est-ce que chacun... Donc, obligatoirement, il y a une conscience qui est intégrée ou pas. Là, moi, ça, je sais pas. C'est des questions qu'il faudrait poser, donc, par exemple, lors des rencontres entre ces scientifiques et le Dalai Lama. Est-ce que le fait que la conscience rentre, c'est vraiment au moment où le scientifique, le chercheur, le médecin introduit le spermatozoïde dans l'ovule ou etc.
C'est par rapport à ce moment précis, en fait.
Donc, après, dans le texte, il est dit, c'est quand les deux substances rentrent en contact, il y a la conscience qui rentre. Peut-être c'est possible que dans tous les, même les, donc après les ovules qui sont congelés, qui ont été fécondés, peut-être qu'il y a des consciences et puis qui sont là et elles n'ont pas les conditions pour se développer. Et puis si le jour où ils jettent les ovules, elles vont dégénérer, puis l'être il va mourir, c'est possible. Mais là je peux pas vraiment répondre.
D'accord. Merci.
C'est bon. Oula. Donc d'abord, la dame à côté de Patricia, parce que ça fait un moment que vous vouliez poser la question, pardon.
Oui, bonjour. Alors, je voudrais demander, quand on perçoit l'esprit d'une personne décédée, nous, en tant qu'humains présents, quand on perçoit l'esprit d'une personne décédée, qu'est-ce que ça veut dire ? Une première question. Et une autre question, quand quelqu'un est blessé et est dans le coma, quand il commence les processus de dissolution, hein, et parfois il revient ou sur Terre, ou parfois il ne revient pas,
donc,
qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Par rapport à la première question, voir l'esprit d'une personne... là encore, c'est très difficile à répondre. Il y a dans certains textes bouddhistes, ils font mention d'êtres, d'esprits, qui prennent l'apparence du défunt. Mais en fait, c'est pas le défunt. C'est pas le défunt lui-même. Et cet esprit, il prend cette apparence parce que il sait justement le lien qu'on a avec la personne. Et après, donc, il y a une relation qui peut être bénéfique ou maléfique. Dans des textes, ils mentionnent ça. Après, est-ce que c'est vraiment l'esprit de la personne qu'on voit ou pas ? Je sais que par exemple dans le livre là que je vous ai conseillé, qui s'appelle Le confin de voyage aux confins de l'esprit, donc ce dialogue entre le Dalai Lama et les scientifiques, le Dalai Lama, quand il a entendu parler de ses expériences de proximité de mort et qui disait que la personne, donc d'un point de vue bouddhiste, elle n'est pas encore morte, hein. Elle est toujours là, bien vivante, et que elle a souvent il y a des témoignages où ils disent ils voient des proches qui sont déjà décédés. Là, Dalai Lama, le commentaire qu'il a fait là-dessus, il a dit c'est très certainement en fait dû à des empreintes qui sont déposées sur l'esprit de la personne. Il y a la personne a ces visions là. Mais est-ce que en fait vraiment ça correspond à ces personnes ? Le Dalai Lama il dit non, parce que ils ne sont pas restés sous cet aspect. Ils ont continué leur chemin. Ils ont été dans l'état du bardo. Ils ont pris de renaissance et donc ils ont absolument plus du tout ce support qu'ils avaient, etc. Et donc là c'est plus un processus interne, tout simplement, qui le Dalai Lama dit à ce moment-là, ça pourrait se rapprocher un peu dans le rêve. Dans le rêve, tout simplement, on a des expériences où on peut même voir des proches, même qui sont encore en vie, ou etc. Donc là, ce serait plutôt de ce domaine-là. D'accord. Après, donc là, par rapport à tout ça, je pense que il faut vraiment avoir un esprit d'ouverture, et puis un petit peu s'interroger, essayer de justement lire différents ouvrages, etc., de spécialistes qui se portent sur la question. Quelque chose d'assez intéressant que mentionne aussi le Dalai Lama, c'est qu'il dit que par rapport aux visions qu'il y a, dans les expériences de proximité de mort, il y a le facteur culturel qui est très important apparemment. Et les recherches qui sont faites par les scientifiques, il y en a beaucoup qui sont faites en Occident. En Occident, par rapport à une culture... chrétienne. Donc souvent les gens ils ont des expériences et il y a des symboles qui sont en relation avec cette culture, et c'est peut-être fort possible que si on interrogeait des personnes d'une culture tout autre en fait et qui faisaient des expériences de proximité de mort, il y ait tout simplement des expériences avec des symboles qui soient beaucoup plus proche de leur culture. Et par exemple, dans le bouddhisme tibétain, on parle d'un texte dans l'école Nyingmapa, par rapport justement à la mort, l'état intermédiaire, il y a un texte qui s'appelle le Bardo Tetul, où on explique toutes les visions qu'on va avoir, etc., au moment de la mort, des visions paisibles, des visions de déités courroucées, etc. Le Dalai Lama, son commentaire, c'était de dire, ça c'est vraiment quelque chose qui est en relation à une culture bien précise, et que, par exemple, nous autres occidentaux, si on n'a pas du tout été en contact avec ces facteurs-là, dans l'état intermédiaire, on n'aura pas ces visions telles qu'elles sont décrites, mais on aura des visions qui sont, correspondront plus par rapport à ce qu'on a été dans notre vivant. Donc l'expérience qu'on fait dépend quand même complètement un petit peu de notre histoire. Donc après, je pense que là, si vous êtes intéressé par ces aspects-là, déjà le livre là que je vous ai conseillé, puis bon, il y a beaucoup d'autres livres sur le sujet. Et essayez vraiment donc d'avoir un esprit extrêmement ouvert et de bien voir que donc il y a des êtres qui font des expériences, mais ils les font dans des conditions bien précises, avec des paramètres bien précises. Donc par exemple, très souvent, il y a des similitudes dans l'expérience qui est faite en Occident, mais si on les faisait autre part, il y aurait peut-être des points communs, mais il y aurait aussi des différences. Et là, ça pourrait montrer qu'il y a le facteur culturel, le facteur historique de ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, qui donc joue un rôle important aussi par rapport à l'expérience, par exemple de proximité de mort, etc. Ça va ? Ouais.
Juste, je voulais savoir si on dit qu'il faut toucher la tête effectivement du mourant. On en a parlé tout à l'heure, mais je voulais juste avoir une précision, savoir si c'était après la mort clinique occidentale ou après la mort, après que la goutte.
Donc l'idéal, l'idéal d'un point de vue bouddhiste, l'idéal, c'est si quelqu'un meurt, c'est de laisser le corps tranquille sans le toucher. Malheureusement, en Occident, ça très souvent, c'est difficile. Donc traditionnellement, on dit le processus dans une mort naturelle normale peut prendre 3 jours, 4 jours. Ok. Donc c'est laisser le temps. Et ne rien faire. Donc ça, c'est très difficile. Mais parfois, c'est possible. Et parfois, donc il y a même des cas où il y a eu des dérogations spéciales et on pouvait garder le corps encore plus longtemps et garder d'une manière traditionnelle au Tibet. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient gardé le corps intact sans le toucher jusqu'à ce que les signes de la mort apparaissent. Entre autres, qu'il y ait donc plus du tout de chaleur au niveau du plexus solaire, qui est le signe, par exemple, de la goutte de sang au niveau du nez et la goutte blanche au niveau de l'organe sexuel. Et à ce moment-là, donc là, ils auraient touché le corps. Ils auraient commencé à toucher le corps par où? Par la tête. Donc en Occident, comme c'est pas très souvent pas possible, en fait, de faire, c'est d'essayer d'attendre au maximum. Et en fait, si c'est possible, que la première personne qui touche le corps le touche plutôt à un endroit favorable. Donc après, aussi, il faut avoir une attitude détendu. Si c'est pas possible et que c'est passé autrement, faut pas stresser, parce que la cristallisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'ignorance. Ok? Et on va être dans un état de mal-être intérieur lié à de l'attachement, de l'aversion. Ça aide la personne qui est en train de mourir? Non, pas du tout. Donc c'est toujours demeurer dans un état détendu, de sagesse, de bienveillance. Et puis après, donc ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qui a pas pu être fait, bon ben c'est pas fait. Mais c'est pas grave, on continue ici et maintenant à toujours avoir l'attitude la plus constructive. Donc, si possible, la mort véritable. Et après qu'il y ait eu cette mort véritable, stimulée, donc dans les textes, dans la tradition bouddhiste tibétaine, ils vont dire le haut de la tête. Si vous avez des substances, des reliques ou des substances vraiment bénites, telles que du sable de mandala, etc., vous pouvez aussi l'appliquer sur le sommet de la tête. Après, donc je vous en ai pas dit, mais dans la tradition tibétaine, quand quelqu'un meurt, traditionnellement dans l'école Gelugpa, par exemple, il y a 8 prières qui vont être récitées. Donc vous pouvez tout simplement demander à un monastère ou à un centre, etc., que ces prières soient effectuées. Parfois, il y a même une personne peut se déplacer là-bas. Vous pouvez, si vous pratiquez un petit peu, réciter ces prières. Vous pouvez faire des pratiques telles que la pratique du Chenrezig, avec la récitation du mantra Om Mani Padme Hum. On peut faire des pratiques telles que des pratiques du Bouddha de la médecine, etc., avec le mantra. Donc on peut les faire soi-même. On peut demander aussi à d'autres de le faire. Et puis, si on a un proche qui meurt, c'est bien d'utiliser soit un petit peu de ses propres ressources ou des ressources de la personne, si elle était d'accord, pour tout simplement demander, donc, encore une fois, des monastères ou etc., de faire ces pratiques. Donc, du côté de la famille, etc., il y a vraiment tout simplement une énergie qui est mise. Et puis, cette énergie, elle se retraduit par tout simplement le fait qu'il y ait des pratiquants qui effectuent les pratiques pour créer des conditions favorables pour le passage de la personne.
Alors, moi j'ai le micro, j'en profite. Alors moi, ça commence à fumer un peu là-haut, les neurones, là, ça va bien.
Donc il faut laisser décompresser. Alors.
Non, mais en fait, moi j'ai une question par rapport à quand l'esprit quitte le corps. En fait, là, je visualise un truc. Là, je vois pas très bien. En fait, quel est son véhicule? En fait, il est autonome, il est appelé. Je vois pas très bien.
Donc là, c'est l'aspect le plus subtil qui constitue l'individu. Et au niveau du tantra, on dit que c'est l'esprit le plus subtil, l'esprit de clair lumière et le vent le plus subtil. Mais c'est quelque chose donc d'extrêmement, extrêmement, extrêmement raffiné, d'extrêmement immaculé, qui a un potentiel illimité. Ça, c'est vraiment, en fait, d'une certaine manière, passez-moi l'expression, la constance, je dis passez-moi l'expression parce que c'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui est renouvelé encore et encore, instant après instant. Mais au niveau de la continuité, si on parle de la continuité d'un individu, la seule chose qui a une continuité ininterrompue, c'est quoi? L'esprit le plus subtil. Et quand on parle de entre guillemets, la monture, le support qui accompagne cet esprit le plus subtil, c'est ce qu'on appelle le vent le plus subtil. Oula, il y a des questions alors, maintenant.
Oui. C'est bon.
Parlez très très proche alors.
Oui. Quand l'esprit de conscience du bardo intermédiaire, est-ce qu'il a encore le choix pour la renaissance ou est-ce que c'est déjà.
Donc d'une certaine manière, on a vu, il est déterminé plutôt par en fait le dernier moment grossier de conscience de la vie précédente. Mais ce n'est pas complètement définitif, puisque des conditions extérieures, telles que des rituels, etc., peuvent influer et lui donner une autre direction.
D'accord, mais pratiquement, c'est...
Et c'est quelque chose, de toutes les façons, qui est relativement court. Hein.
D'accord.
C'est au maximum 49 jours, mais il faut bien voir que ça ne dure pas forcément 49 jours. Donc, par raison de sécurité, en fait, nous, on fait les rituels pendant 49 jours. Mais si vraiment il y avait quelqu'un qui avait développé un niveau de clairvoyance, peut-être il pourrait dire bon, là détendez-vous parce que là lui il a déjà pris une bon peut-être qu'il laisse faire parce que comme ça on accumule du mérite pour nous-mêmes donc c'est très bien puisqu'on pense aux autres etc. Mais ça peut être très très court, ça peut être le bardo il peut durer juste une journée à la rigueur.
D'accord.
Mais au maximum il va durer 49 jours.
Et quelqu'un qui a réalisé la vacuité, enfin l'esprit de clair lumière, il passe pas par le bardo intermédiaire, si?
Donc, par exemple, un très haut pratiquant au niveau du tantra, justement, tout ce processus, il l'utilise et ce processus lui permet de complètement tout purifier. Et donc, pour un être extrêmement avancé, qui réalise par exemple la vacuité et qui va réaliser la vacuité à l'aide de l'esprit de clair lumière, à ce moment-là, il n'a plus du tout aucune perturbation mentale. À ce moment-là, il prend une forme pure, qui est très très proche de l'état de Bouddha. Et il lui reste juste un dernier petit apprentissage à faire, c'est d'unifier l'esprit de clair-lumière avec ce qu'on appelle ce corps illusoire pur. Et il y a donc à un moment cette union qui débouche complètement sur l'illumination. Mais si un être est capable vraiment d'être pleinement conscient de l'esprit de clair-lumière, de l'utiliser pour réaliser directement la vacuité, il est très 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 proche de l'illumination, c'est un être extrêmement avancé, c'est un être qui est capable de faire des choses extraordinaires. Et ce corps extrêmement pur, en fait, il a une capacité de générer une infinité d'émanations, même déjà pour venir en aide aux êtres, etc. Donc là, on est déjà complètement au-delà.
Merci.
Un petit peu d'un mode de fonctionnement ordinaire. Par là-bas, Tamara?
Si nous accompagnons une personne qui est athée, par exemple, et qu'on lui récite des mantras, ça va peut-être l'énerver?
Oui.
Non?
Ah, mais j'ai pas
donc pardon. Là, par exemple, le Dalai Lama, il avait dit, vraiment dans ces cas-là, c'est vraiment tout faire pour que la personne se détende, que la personne se sente bien. Si on accompagne quelqu'un qui est mourant, qui est athée, etc., qui ne croit pas, tout c'est vraiment en fait créer l'environnement pour au maximum la rassurer, pour qu'elle soit sereine, pour qu'elle parte dans les meilleures conditions mentales intérieures. Et donc là, le Dalai Lama, il ne nous conseille pas de réciter les mantras. Donc après, mentalement, si ça nous permet de générer une très belle attitude de compassion et d'amour, etc., ouais, et cet amour, cette compassion, elle nous motive pour accompagner comme la personne le souhaite, comme elle se sent confortable avec, oui, ça c'est très bien. Vous pouvez même, si vous avez reçu une initiation, visualiser comme la déité et en même temps visualiser aller aider 100 000 autres personnes. Là, il n'y a aucun souci. parce que ce qui va nous vraiment nous animer, c'est cet amour et cette compassion. Et après, il faut juste s'assurer que on va pas tout simplement manifester cet amour et cette compassion sous une forme que nous on considère être juste, mais être à l'écoute de l'autre et voir qu'est-ce qu'elle a besoin, l'autre. Et ce dont elle a besoin, c'est de partir tranquillement avec un esprit serein. Donc, c'est de tout faire pour créer l'environnement qui va lui convenir à elle pour partir sereinement. C'est bon? Donc, on va juste conclure avec les dédicaces. Donc, comme toujours, en résumé, il y a trois grandes dédicaces. Donc, dédicace qui est donner une direction à l'énergie positive qu'on aurait créée. Ces trois grandes prières, c'est tout simplement que toute l'énergie positive, elle puisse permettre à tous les êtres d'obtenir le vrai pur bonheur, l'état de Bouddha, que toutes les pratiques, les techniques qui nous permettent d'obtenir cet état puissent se développer, fleurir, et que les êtres complètement purs et parfaitement qualifiés pour nous enseigner ces techniques demeurer parmi nous et nous guider. Et on matérialise ces prières donc par la prière dédicace à la page 90, tout d'abord. Je dédie toutes les vertus que j'ai accumulées pour le bien des enseignements et des êtres, et surtout afin que brillent à jamais les enseignements essentiels du pur et parfait Losang Jagpa. À la page 91, grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la Bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et la prière de longue vie pour sa sainteté Dalai-lama, page 92. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Et juste toute dernière petite chose pour les gens qui font le travail à la maison. Donc il y a toujours les petites questions. Là, il y en a 9, dont 2 facultatives. Mais donc après, on n'a pas besoin vraiment d'y revenir dessus parce qu'on a vraiment bien tout couvert les sujets que ces questions traitent. Donc je pense qu'elles vous poseront aucun problème. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un très bon retour, une bonne fin de week-end, une bonne semaine et peut-être à une autre fois. Merci.